Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
C'est votre rendez-vous bonne humeur de l'après-midi sur Europe 1, même le week-end, sous la forme de compilation de la semaine pour revivre les moments marquants passés aux côtés de Mathieu Noël et autour duquel vous retrouvez Eva Roque, sa complice, les journalistes d'Europe 1 engagés dans une compétition gentiment féroce pour décrocher le titre de chroniqueur du jour et dont le vote de l'invité compte triple. Et à chaque jour un invité, ils étaient avec nous, Élise Moon et Florent Père lors de l'émission publique, mais aussi notre chroniqueur culinaire Laurent Mariotte, la comédienne Léa Drucker était là avec nous cette semaine, la chanteuse Imani et le rappeur Oxmo Puccino qui a pu découvrir le sujet d'Anne Le Gall.
Anne Le Gall, notre expert environnement qui doit notamment son succès à une logique sans faille, un esprit d'une vivacité parfois spectaculaire. Accrochez-vous.
Qui dit bateau dit éventuellement poisson qui tombe des filets, poisson à pêcher.
Phénoménal, Anne Le Gall, vraiment très très logique.
C'est logique.
Ce soir avec vous Anne, on ralentit. Vous nous proposez un guide pour découvrir l'art de slow consommer.
Oui, car 7 salariés sur 10 disent manquer de temps. C'est le cas aujourd'hui. Et c'était déjà le cas en 2015, quand Oxmo Puccino vous chantiez ceci.
Dorénavant, je suis dans la slow life. Au prix de la chair humaine.
Je suis dans la slow life. Prendre son temps n'a rien de trop naïf. La slow life, ça n'est pas la no life. Votre message a fait des émules.
Ah ouais,
et depuis 5 ans,
fou.
Le mouvement slow n'a cessé de se développer. On parle de slow food, slow city, slow fashion, slow tourisme et même slow consommation, comme l'indique ce livre qui vient de paraître aux éditions Marabule.
C'est les éditions Marabule. Et c'est le nom Marabule qui m'a interpellé. Cette mode du slow, c'est juste un concept marketing ou il y a une vraie philosophie derrière ?
Alors c'est plus que du marketing, l'idée c'est pas juste de prendre son temps, de glander, c'est un petit peu plus, il faut trouver des modes de consommation alternatifs à la standardisation et à l'industrialisation. Alors le mouvement d'ailleurs a démarré en Italie en 1986, c'est avec la slow food par opposition au fast food. C'est un sociologue, Carlo Petrini, qui a lancé ce mouvement. Un jour il en a eu marre qu'on lui serve des poivrons sans goût en antipasti. Et il s'est rebellé, il a décidé de se mobiliser pour réhabiliter la qualité des aliments en général et valoriser aussi évidemment le travail des petits producteurs, les produits de saison. L'association Slow Food compte aujourd'hui 100 000 membres dans 160 pays. Il y en a 2 000 en France. Dans la même veine, à côté de la slow food, on a la slow fashion par opposition à la fast fashion. Alors là encore, l'effort, c'est d'acheter moins de vêtements, mais de meilleure qualité. Pour ça, la slow fashion propose quelques repères. Par exemple, ne garder pour une seule année que 100 pièces dans sa garde-robe. Donc c'est 100 pièces, accessoires, chaussures.
C'est déjà pas mal, 100
ouais,
pièces.
C'est beaucoup.
Alors,
déjà.
Ben, essayez, mais franchement...
On en a plus
oui. On en a beaucoup plus. On en a beaucoup plus.
Et parlez pour vous, Anne.
Et l'idée,
c'est...
Et oui.
Ah oui.
Ah oui, non, mais si on compte tout...
Ah, c'est tout compris.
D'accord. Tout compris. Et donc, au moment de l'achat, l'idée, c'est d'acheter moins et donc de faire en sorte de n'acheter que des vêtements, par exemple, qu'on pourra assortir de 3 façons différentes. Comme ça, au moins, on est sûr de les porter parce qu'il faut savoir que la moitié des vêtements produits dans le monde ne sont jamais portés.
Ça, c'est un chiffre.
Les collections s'enchaînent tellement vite qu'en fait, certains vêtements n'ont même pas le temps d'être portés. La moitié des vêtements produits dans le monde. Donc voilà, donc la slow fashion, c'est en opposition à ça. On a aussi la slow cosmétique maintenant.
Qu'est-ce que c'est que ça, la slow cosmétique ?
Vous mettez tranquillement votre crème à...
C'est la cosmétique suisse, quoi.
C'est pas qu'on l'applique lentement, c'est qu'on en applique moins de crème. Alors voilà, il y a une règle, c'est de n'appliquer que 2 couches maximum de produits maquillage.
Moi, je le fais parce que je suis radin. C'est la radin cosmétique.
Alors, non, là, l'idée, c'est de consommer moins d'emballage, lutter contre les perturbateurs endocriniens qui sont présents dans 40% des produits cosmétiques. Donc, on essaie d'acheter des produits qui servent à toute la famille avec moins d'emballage et on applique seulement 2 couches au maximum. Il y a aussi maintenant les slow cities. À votre avis, c'est quoi ?
Je sais qu'on est un peu des brels en anglais, mais enfin quand même, à mon avis,
c'est la limite à 40 km/h.
C'est pas des villes dans lesquelles on roule au ralenti. Ce sont des villes qui ont été conçues, en tout cas qui font tout pour limiter le stress urbain. Là encore, c'est une association internationale née en Italie. Et il y a 72 critères qui permettent de reconnaître les villes lentes. Donc c'est la lutte contre la pollution sonore, l'aménagement urbain, les zones piétonnes, les commerces de proximité. 10 villes ont été labellisées en France et dans le monde, il y en a un petit peu partout. Alors évidemment, Paris n'en fait pas partie. Ce n'est pas une surprise, mais bon, peut-être qu'un jour, à Paris aussi, la lenteur nous rattrapera.
Oxmo, vous aimeriez que la lenteur nous rattrape parfois ?
Je ne sais pas.
je ne sais pas.
Vous vivez comment ?
J'alterne en fait, je suis dans les extrêmes.
Ah oui ?
Ouais, soit c'est l'explosion et soit c'est le silence total.
Mais vous pouvez être un gros consommateur par exemple, avoir une frénésie d'achat, ça vous arrive ?
Non, jamais.
Ah non, bah voilà.
Non, jamais.
Vous n'êtes pas dans
frénésie
les extrêmes.
Frénésie de vie,
ouais.
Frénésie de vie, mais d'achat, non. Non, non, non. Je suis dans la place qu'occupe la pièce. Voilà. C'est-à-dire, c'est vrai que les sans accessoires, si on les voit devant soi et qu'ils ne servent à rien, moi ouais. Ça me perturbe un peu. Donc,
d'accord,
je suis dans
vous êtes un peu minimaliste alors ?
J'aimerais bien.
D'accord.
J'y arrive.
18h.
Pour se divertir tout en s'informant, et c'est avec Mathieu Noël, Eva Rock sa complice, et à présent avec Thierry Geffretin, dont on va découvrir le sujet. C'était mardi sur Europe 1, et en présence de la chanteuse Imani.
Thierry, une fois n'est pas coutume, c'est dans une salle de cinéma que vous souhaitez nous entraîner aujourd'hui.
Oui, habituellement c'est Mathieu qui nous y emmène.
Oui. Il va encore aller, je vous dis tout de suite.
Alors, je vous emmène dans une salle de cinéma, alors on pourrait assister à un concert de Mylène Farmer, un spectacle de Florence Foresti, un ballet. Moi j'ai choisi de vous emmener dans un cinéma pour voir un opéra qui peut se donner à New York, à Milan, à Moscou, à Paris. Et vous pouvez donc voir un opéra en entrant dans une salle de cinéma tout près de chez vous.
Alors, ça fonctionne comment et le résultat est-il à la hauteur d'un opéra, justement?
C'est en direct, pardon, Thierry.
Alors,
c'est en direct.
Alors, la plupart du temps, c'est en direct.
Ah, c'est ça que je trouve génial. Parce que sinon, ça n'aurait pas la même saveur.
Ah, mais évidemment. Alors, techniquement, il faut d'abord évidemment que le son et l'image soient de très haute qualité. Alors, pour l'image, il faut dire que les réalisateurs ont souvent une batterie de caméra. On peut donc faire des gros plans sur les artistes, sur les solistes, si bien que vous êtes dans une salle de cinéma, mais vous voyez mieux
que les spectateurs,
qui
sont dans le carré or à l'opéra.
Dans la salle, puisqu'on peut faire des gros plans. Alors, le son, évidemment, très, très, très important, parce que si l'opéra, c'est l'art total, c'est quand même avant tout de la musique. Et le son, c'est une très haute définition, c'est un son numérique 5.1. Ne me demandez pas ce que c'est, mais on sent que c'est très bien, si vous voyez.
Le 5.1. Même moi, Thierry, je peux vous expliquer ce que c'est. Donc.
Et je vous le disais, la plupart du temps, c'est quand même en direct. Et ça, c'est formidable. Quoi.
Et alors, quel cinéma propose ces retransmissions ?
Alors, c'est Pathé qui s'est lancé dans cette aventure il y a plus de 10 ans et qui a noué des partenariats avec de grandes maisons d'opéra, en particulier, je vous disais, le Metropolitan de New York, le Bolshoï de Moscou, plus près de nous, l'Opéra de Paris, parce que tout le monde n'habite pas Paris. On peut donc aller dans une salle de cinéma en province et assister à un spectacle.
Et tout le monde n'arrive pas à avoir des places pour l'opéra.
Exactement.
Petit clin d'œil à l'opéra de Paris.
Exactement.
J'arrive jamais à y aller.
Et puis le réseau UGC lui a emboîté le pas avec Viva l'Opéra. UGC a noué d'autres accords avec d'autres opéras comme la Scala de Milan, le Festival de Salzbourg ou le Liceu de Barcelone. C'est vraiment des très grandes salles d'opéra. Hein.
Alors par exemple, on pourra voir quoi prochainement ?
Alors on pourra voir un opéra de Handel le 29 février à Agrippina, le Vaisseau Fantôme de Wagner le 14 mars, Tosca en avril, Marie-Histoire de Donizetti. Voilà ce que propose Pathé Live. UGC de son côté, Les Noces de Figaro, à Mozart, donc les 13 et 20 février, et Salomé de Richard Strauss, les 5 et 12 mars. Ça, c'est ce qui est... On est déjà en cours de saison, il faut le dire.
Thierry, vous m'avez écrit une autre relance, mais j'ai une autre question qui me vient.
Allez-y,
le problème de l'opéra, c'est qu'il y a quand même des entractes où on va boire une petite coupe de champagne à l'entracte qui dure souvent longtemps. Qu'est-ce qu'on va foutre au cinéma avec des Maltesers et on va pas se taper trois entractes.
On parle à son voisin.
On est obligé de parler à son voisin. Quelle horreur,
quelle
Thierry.
Horreur, n'est-ce pas ? Ben non, mais c'est à peu près la même chose que si on va dans une maison d'opéra.
Et alors, ça coûte combien de voir un opéra au cinéma ?
Alors, ça coûte... plus cher qu'une séance de cinéma.
C'est normal.
Pour Pathé Live, c'est 36 euros. 20 euros pour les moins de 26 ans.
Ah oui, quand même, ça fait cher quand même, Thierry. Hein, 36 euros.
Mais un opéra, ça dure parfois 3 heures.
Hein. Oui, d'accord. Mais enfin, sauf que là, je ne sais pas, il devrait faire un petit effort sur le prix des places.
Alors,
UGC,
c'est 30 et 10 euros.
Vous 10 euros, ça c'est bien.
Vous imaginez l'investissement artistique et l'investissement
technique,
etc. Puisqu'on parle de gros sous, le coût moyen d'une captation pour le Met, le Met diffuse dans 73 pays. Hein. Le coût, c'est 1 million de dollars. Vous imaginez.
Il faut un peu rentabiliser.
Voilà, il y a 300 000 spectateurs à peu près par représentation depuis New York, mais il y a un bénéfice de 2 millions de dollars.
Imani, vous aimez l'opéra ?
J'y connais rien du tout.
Vous êtes déjà allé voir un opéra ?
Oui, oui. Et le peu de fois, ça m'a intéressé, j'ai trouvé ça beau. Je trouve qu'il faut expliquer un peu ce qu'on va voir.
Alors, c'est sous-titré. En général, c'est sous-titré. Ça, c'est très important. Vous savez, l'opéra, en général, c'est la soprano qui est amoureuse du ténor et réciproquement avec la basse qui n'est pas contente.
Voilà, la basse qui n'est pas contente et qui essaie de pécho la soprano.
Non, mais ce que je veux dire, c'est souvent des histoires d'amour contrariées. Bon, il y a des histoires épiques, mais ça tourne autour de l'amour hein, quand même, l'opéra. Mais je suis d'accord avec vous. C'est bien quand on arrive et on sait à quoi on peut s'attendre. Parce que si on ne comprend
rien... Moi, je lis toujours le livret avant.
Alors, je dis que c'est une grande réussite financière, mais c'est mieux que ça. Parce que c'est une porte ouverte pour l'opéra, qui est quand même un endroit où on n'ose pas aller, c'est cher. Et on se dit, tiens, je vais aller au cinéma. Et c'est une autre manière de découvrir l'opéra.
Et puis, ça change un peu des plans où on emmène sa copine voir un film d'horreur pour qu'elle se blottisse contre...
C'est chic. C'est
pas mal de lui dire, viens, on va à l'opéra, on va quand même voir un truc un peu chic. Qu'est-ce qu'il y a, Eva?
Vous êtes has-been, c'est incroyable.
Oui, je suis has-been et je l'assume.
Faut juste avoir un sujet de conversation pendant les entractes.
Oui, c'est ça. Il faut bosser avant. Merci Thierry Geffrotin. Jean-Philippe, une réaction fair play à la chronique de votre rival.
Mais c'est débile.
Merci.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipé sauvage.
Avec Mathieu Noël, Eva Rock et tous les invités, vendredi en 8, le 31 janvier, lors de l'émission en public, Mathieu Noël accueillait Elie Semoun pour parler notamment de son premier long métrage avec le troisième volet des aventures de Duc Aubu. Florent Père, qui figure au casting, était là aussi.
Je commencerai, chers auditeurs, par une confidence qui démontre que je suis un homme qui tient ses promesses. En effet, la dernière fois que nous avions reçu Elie Semoun dans l'équipe Sauvage, il avait semblé regretter qu'il n'y ait pas de public. Nous n'avions pas encore le budget pour ça à l'époque. Avec la générosité qu'on lui connaît, Elie s'était alors proposé de nous aider.
Est-ce que vous voulez que je fasse semblant qu'il y ait un public ?
Ce jour-là, j'avais dit à Elie, si jamais les audiences sont bonnes et qu'on a un peu plus de blé, promis, la prochaine fois, je t'offre un public et tu peux même venir avec un pote. Chose promise, chose due. On souhaite la bienvenue à Elie Semoun et Florent Père dans l'équipe Sauvage en public le vendredi. Vous faites bien le public, Elie, mais le public, en vrai, c'est mieux.
C'était tellement triste la dernière fois. C'était pathétique, mais c'est vraiment, je voulais pas te le dire.
On avait passé deux heures d'une tristesse terrible, d'ailleurs.
D'une tristesse, mais c'était
mais alors,
terrible.
Moi, en revanche, je vois le public, oui. Mais je ne vois pas le pote.
Florent, vous êtes ce pote.
Il veut exister.
Ah, c'est moi. Et oui,
il
c'est
veut
vous.
Exister. C'est oui. Typique du comédien. Il veut la lumière
tous
sur lui.
Ses égaux.
Oui, bon. Tu existes. Ah, oui, tu
je
es
suis là.
Oui, tu es là. Tu n'as pas de talent, mais tu es là.
Elie Semoun, vous réalisez Duc Aubu 3 et Florent Père, vous jouez dedans. Le film sort le 5 février, mercredi prochain. Et Elie, c'est votre première réalisation. Alors déjà que je vous connais un peu, vous êtes du genre anxieux et stressé. Là, vous devez être liquide.
Non, pas tant que ça, hein, parce que franchement, j'avais co-écrit le scénario avec Marc de Chauvron et Guy Laurent. S'ils écoutent au grand pain, ils seront contents de l'entendre. Et puis moi, j'ai fait perdre un peu de temps. Enfin, je veux dire, ça m'intéresse. Mais, non, mais donc, je maîtrisais mon sujet. Donc franchement, j'ai pas eu trop de stress. C'est maintenant que je commence à flipper. Là.
C'était le film idéal pour commencer pour se mettre à la réalisation.
Ah,
vous connaissiez l'univers parfaitement.
Complètement.
Duc Aubu, troisième du nom, petit avant-goût.
Tu veux remporter une jolie cagnotte pour ton école? Inscris-toi au mini conservatoire.
Mais tu chantes comme une casserole.
Mais je triche comme un roi. Ça va être la triche du siècle.
Je te donne mes notes, je te donne mes mots.
On est sauvés.
Duc Aubu change d'école.
Duc Aubu va sauver Saint-Potache.
Votre fils est un génie.
En cancrerie?
Non, en chant.
Ce n'est pas Maître Beams, mais il faut avouer qu'il a un joli petit brin de voix.
Ce n'est pas Maître Beams, effectivement. Merci. Alors là, Duc Aubu, il va avoir affaire à un nouvel adversaire encore plus rusé que lui.
Oui, oui. TGV.
TGV, on le surnomme.
Théo Georges Vincent.
C'est la triche, mais 2.0, quoi. C'est,
la triche 2.0, voilà.
C'est plus moderne.
Il a été appelé TGV par sa mère parce qu'il est né en 59 minutes. Enfin, il a été plus rapide que le Paris-Lille. C'est l'explication qu'il donne. Mais oui, en effet, il a un ennemi juré, le petit TGV. Mais ils vont s'allier tous les deux pour couper les pattes à... Enfin,
couper l'herbe sous le pied. Non, couper les pattes, c'est une expression qui n'existe pas.
J'ai failli spolier le film.
Ah oui, non, faisons
rien.
Oui,
en fait, dans ma tête, c'était couper les pattes, couper la voix, couper les...
Je crois qu'on dit spoiler, par contre.
Hein?
Non, t'as dit spolier, je crois qu'on dit spoiler. Mais
c'est ton attitude est moche, Florent.
Est-ce que vous avez déjà touché votre cachet, Florent, sur le film?
Parce que... Tu es mon ancien employé.
Non, sur le film, c'est pas mon cachet que j'ai touché, je vous expliquerai ça plus tard. Mais ça, c'est travailler avec Elie.
On est en train de faire la promo de Duc Aubu, là, les mecs. Faut qu'on se remette dans le contexte.
Oui, c'est vrai,
non, mais bref, TGV et Duc Aubu vont s'allier pour niquer.
Oui, on peut le dire. Un film familial où tout le monde se nique.
Niquer sa race.
Niquer sa race. Ouais.
Florent, vous incarnez une sorte de Nikos Aliagas, un petit peu cynique, c'est le cas de le dire.
Oui, c'est ça.
Vous êtes beaucoup inspiré de Nikos pour ce personnage d'animateur télé.
Oh non.
On ne sait jamais.
Si, sur les suspens, ouais, j'aime bien quand il... il est engagé, tu sens qu'il est très touché et tout. Je crois que Nikos ne le joue pas vraiment. En fait.
Il est bien, Nikos.
Il est génial.
C'est un super animateur.
C'est le meilleur animateur du monde, je trouve. Mais... il est trop bien, la classe.
Il paraît que vous savez l'imiter.
Alors, l'autre, oui.
Enfin, non, tu sais imiter Hanouna, toi.
Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas
fait. Non, mais tu le fais tellement bien.
Nikos, je fais. Non, mais c'est Manu Payet qui imite Nikos. En fait.
c'est ça, encore mieux. Je fais
salut les loups, bienvenue dans le château. Les coachs, Jennifer, Gao, Florent Panet, tout ça. Donc en fait,
Hanouna,
je sais faire que son rire.
Je l'adore.
Attends, Hanouna, attention.
Son rire.
C'est magnifique, c'est magnifique. C'est vrai qu'on s'y croirait, mesdames et messieurs. Florent Père est notre invité avec Elise Moon. Ils sont à l'affiche de Duc au but 3 qui sort en salle mercredi prochain.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures hybrides à la croisée du journalisme et du rire, un peu comme si un réalisateur bourré avait décidé de faire un mash-up de Game of Thrones et de la cage aux folles.
J'ai cassé ma biscotte.
L'équipe est sauvage en public le vendredi pour fêter la sortie mercredi prochain de Duc au but 3 avec Elise Moon et Florent Père, nos invités. Élie, c'est vous qui réalisez. C'est donc vous qui avez choisi Florent Père pour incarner un animateur télé.
C'est moi qui ai fait cette
bien
connerie.
Dans Duc
au but.
Alors, j'avais prévu cette question. Vous le connaissiez bien avant le tournage. J'ai déjà la réponse. Non, puisque tout à l'heure, vous avez découvert quand même dans notre émission que Florent Père était une star de On demande qu'à en rire.
Je vous jure, je ne savais pas. Mais je ne regarde pas la télé, pas souvent. Donc,
mais alors, comment
mais je t'assure, je ne savais pas du
c'est
tout.
Pas grave.
Comment non, mais comment je le connais parce que je suis humoriste et que c'est mon métier et qu'on se connaît tous. Donc, forcément. Je le connais.
C'est le Florent Père sur scène que vous aviez vu.
Voilà, exactement. Tout à fait.
On continue de parler du Cobu 3.
Ouais.
Et tu sais que c'est vrai qu'on va continuer d'en parler.
Oui, oui.
Parce que tout à l'heure, tu. Hein bon, bref.
Pourquoi
tu avais mis en doute.
Tutoyer, des
c'est vrai, pardon.
Voyez,
je me laisse en tête.
Vous prenez pour qui, précisément.
Vous savez qui c'est.
Attention.
C'est Élisée.
Attention, Florent.
Parce que tu redescends d'un étage, là, derrière ton petit micro. Et puis tu respectes le monument d'humour qui est là.
Il a foutu la merde sur le tournage. Il a frappé un enfant. Il s'est battu avec un enfant.
Il m'avait volé mon pépito.
Mais qui a eu le dessus.
Okay, bah,
évidemment. Je me tourne vers nos invités, ou plutôt vers Florent Père, car Elise Moon a déjà eu droit à son micro-trottoir la dernière fois. On vous a donc posé la question, qui est pour vous Florent Père? Voici, non pas un micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'ego de l'invité, voici notre micro-trottrash. C'est pareil, sauf qu'on n'a pas coupé les éventuelles vaches.
Ah oui, je connais Florent Père. Je crois qu'il est petit, un peu poilu, il a toujours la chemise ouverte.
Si, voilà, il fait dans Vendredi, tout est permis.
Et les cheveux en arrière avec une petite calvitie.
Il est bien excité.
Il a l'air fou un peu.
Ouais, c'était la bande à On demande qu'à en rire là, avec Ruquier au début.
Il y a beaucoup de personnes qui sont pas en accord avec ce qu'il peut dire ou ce qu'il peut prétendre. Mais après, ça reste de l'humour, je trouve.
Je crois qu'il est con un peu.
Mais il est pas con.
Non, mais genre, il est marrant, genre, il fait le con et ça fait marrer les gens.
Il a du charme, on va dire. Pour son âge, ça va. 47, non? Il a moins?
Je le trouve sympathique parce qu'il répond assez vite aux blagues des autres.
Florent Père?
Je crois qu'il crie un peu, donc on l'entend beaucoup plus.
C'est ça, tangent de vif.
Ouais, il me fait rire.
Alors, Florent Père, vous êtes poilu, ça c'est vrai, mais vous n'avez que 47 ans, je pourrais donner beaucoup plus.
Ouais, c'est quoi? Ils doivent se confondre avec Harry. Harry Habitant, non, non mais on pourrait
Garcia.
Le décrire ah, comme ça, non
Oui,
c'est vrai.
Ouais, ouais. Ça doit être des gens qui confondent. Mais on leur montre la photo quand même. Donc.
Ah oui, alors.
Ah non, bah, ils sont pas. Ah, non, bah, alors, ils ont...
Vous savez, on les aide quand même.
J'ai essayé de te sauver, mais là, franchement.
On ne pouvait pas le sauver. Ouais. Florent Père, j'ai découvert cet été, puisque effectivement, je vous ai croisé, c'est une véritable histoire, dans une boîte de nuit de la Côte d'Azur. Il paraît que vous avez été, avant d'être humoriste, vous avez été champion sportif de haut niveau.
Oui, j'ai été en sport-études ski nautique.
Monsieur
à Saint-Raphaël, dans le Var. Tout à fait. Voilà, j'ai fait 8 ans dans ce Pôle France, ski nautique, mais je n'ai pas eu un très très haut niveau. Mais enfin, j'étais.
Bah, si vous étiez dans le Pôle France, et vous aviez quand même un bon niveau.
Ben, mon père avait racheté le Pôle France et. Comme aux États-Unis. Non, oui, j'avais un petit niveau national. Voilà.
Et alors, vous nous avez fait une Julio Iglesias. On sait que Julio Iglesias, c'est un jour, il jouait au foot, il était gardien du Real Madrid, il s'est cassé la jambe et il a découvert la musique quand on lui a offert une guitare à l'hôpital. Vous avez découvert l'humour à ce moment-là? Comment ça s'est passé?
Oui, j'avais pari de 0 à 21 ans. Là, je faisais du sport, je soulevais des haltères sans jamais rire. Et d'un
t'as
coup,
offert une cassette des petites annonces et puis là, t'as fait.
C'est ça!
C'est possible!
Je ne m'y risquerai pas, c'est trop bien fait.
Et il n'y a pas eu d'année de galère pour vous? Ça a tout de suite été On demande qu'à en rire ou il y a eu des
j'ai,
petites
non,
salles,
galère. Non, j'ai eu 3 ans avant On demande qu'à en rire où je vivais déjà de mon métier, mais ce n'était pas la galère, ce n'était pas l'opulence, mais j'étais déjà tellement heureux de, de faire que ça. J'ai fait un an où j'étais vendeur sur les marchés et dans les foires, et c'était pas vraiment la galère. Et donc, y a pas, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de galère, ça peut venir. Et
vous étiez, vous... bientôt.
T'inquiète pas. Vous étiez fan d'Eli? Avant de le rencontrer.
J'ai vu bien qui donné, mais Eli, non.
Vous les retrouvez.
Vous êtes trop cons.
Vous les retrouvez à l'affiche de Duc au but 3.
Les auditeurs
mercredi
d'Europe
1
le savent.
Élie Semoun et Florent Père passent l'après-midi sur Europe.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Le week-end, on se replonge dans les moments marquants de la semaine passée. Vous le savez maintenant, nous sommes avec Mathieu Noël et Eva Rock. Et maintenant, Emmanuel Duteil qui a choisi de parler une nouvelle fois du Grand-Duché du Luxembourg. C'était mercredi sur Europe 1, en présence de l'invité Laurent Mariotte.
Vous connaissez notre devise, comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire. Et quand Emmanuel Duteil est parmi nous, ça ne risque pas. Autrefois confiné aux profondeurs du classement européen des meilleurs journalistes à la suite de chroniques soporifiques sur la baisse des taux d'intérêt, Emmanuel Duteil, chef du service éco, a su se réinventer en laissant libre cours à sa passion jadis secrète pour les têtes couronnées. Depuis, le Léon Zitrone 2.0 enchaîne les succès, surtout d'estime, mais c'est déjà un début.
C'est ça, j'ai marqué
mieux,
deux points.
Il forme avec moi un duo comique qui n'est pas sans rappeler les grandes heures de Shirley et Dino.
Le roi du Bhoutan est le seul à pouvoir porter la couleur jaune.
Si on se pointe, par exemple, avec un kimono jaune, on est débouté.
Je croyais que vous alliez me faire un truc comme Bhoutan en train et tout ça aussi, mais bon.
Ah non, ça j'ai pas osé.
Vous avez pas osé, mais vous avez raison, parce que je crois qu'il y a pas de train en plus au Bhoutan.
Bon. Alors, Emmanuel, vu le fou rire sur
mais
lequel...
Mais j'apporte de l'information, ah, admirable. Admirable.
De l'info et du lol. Alors, vu le fou rire
du
sur lequel
LOL,
avait débouché...
Moi,
je vous en prie, dites tout de suite que je suis vieux. Bref, vous nous parlez de la Grande-Duchesse du Luxembourg, comme d'habitude. Voilà, ça sera mon lancement.
Oui, enfin bon, Laurent Mariotte, vous avez choisi votre jour, vous l'avez compris, vous vouliez tout savoir sur la cour grand-ducale du Luxembourg, vous n'aviez jamais rien demandé là-dessus. Moi, je vais tout vous raconter. Alors, si vous êtes un petit peu comme Mathieu Charrier, qui était là à vos côtés tout à l'heure, et que vous vous dites « j'en ai rien à faire », bah vous avez peut-être raison, mais je vais essayer quand même de vous intéresser.
Non mais je vous écoute.
Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Eh bien parce que un rapport officiel a été commandé par le Premier ministre du Luxembourg à un ancien inspecteur des finances luxembourgeois sur le train de vie de la cour grand-ducale et savoir un peu comment l'argent public est utilisé et puis pourquoi il y a un tel problème de ressources humaines. Alors ce rapport fait 44 pages. Je tiens à souligner qu'ils n'ont pas dépensé d'argent pour la mise en page parce que c'est vraiment pas très très joli, c'est pas très très agréable à lire. C'est extrêmement...
Mais vous l'avez lu quand même.
Ah, je l'ai lu, je peux vous assurer que je l'ai lu. Hein. 44 pages de ce rapport, en même temps, ça ne demandait pas un effort considérable. Et ce rapport avait été donc demandé parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur le fait que, ce qui avait beaucoup fait rire Mathieu la dernière fois, que la grande duchesse, qui s'appelle Maria Teresa, qui est d'origine cubaine...
La fameuse
La fameuse, que tout le monde connaît, bien évidemment, elle serait... tyrannique.
Elle serait pas gentille, était le terme précis que vous avez utilisé la dernière fois. Alors Emmanuel, on va lever le voile tout de suite. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle est pas gentille, cette duchesse?
Ouais. Toutes les rumeurs sont confirmées. Ouais, ouais. Déjà, on ne peut pas dire que l'auteur du rapport se soit senti très très à l'aise pour faire son travail. Après avoir débuté mes investigations, je ne pouvais plus me départir de l'impression que ma présence était ressentie comme un élément perturbateur, dit-il par exemple.
Qui est en train de dénoncer un scandale
financier. Il confirme
que
le climat est loin d'être au beau fixe au sein du palais. Bah, j'ai senti une certaine anxiété auprès des collaborateurs, comme l'anxiété d'être réprimandé ou de perdre leur emploi. J'ai senti une certaine peur du blâme. Vous voyez, c'est pas très sympa dans les cours du palais grand-ducal. Bien, j'ai bien aimé cette petite phrase aussi. La jovialité et l'humour, ils sont rares. C'est pas comme dans l'équipe sauvage. Et comme le souligne la presse luxembourgeoise, ça n'a rien à voir avec le protocole. Non, le problème est donc très clairement identifié. Et on ne s'était pas trompé la semaine dernière quand on en a parlé. Le problème, c'est donc notre fameuse grande duchesse Maria Teresa, merci de suivre, qui veut tout régenter, voilà, et qui fait tourner tout le monde en bourrique. Il y a aussi quand même le problème de l'utilisation de l'argent public, puisque là, très clairement, ils disent qu'on ne sait pas très bien. Il y a une dotation d'un tout petit peu moins de 11 millions d'euros qui est accordée à la famille grand-ducale, mais bon, ils se trompent, semble-t-il, un petit peu pour financer le public et le privé.
Alors, c'est vrai que, Emmanuel, entre votre passion pour l'économie, et les têtes couronnées et l'humour, on ne sait plus trop, mais là, vous, dans la relance, vous m'avez, j'ai l'impression, glissé une blague, puisque vous m'avez écrit « Et comment ce rapport a-t-il été perçu par le souverain ?» Vous nous aviez parlé d'une possible addiction. Vous voulez parler d'abdication, peut-être, parce que addiction, addiction à quoi?
C'est mon addiction aux têtes couronnées, et je voulais écrire abdication.
Il me fout des pièges dans les relances.
Ouais, c'est ça, je voulais. Bon, en tout cas, je suis. En plus, rien ne marche derrière, parce que moi j'avais prévu de vous dire ce que vous deviez me dire abdication. Je suis content de vous dire, tiens, vous avez quand même retenu ma chronique de la dernière fois.
Un effet qui passe à la trappe. ça arrive au meilleur.
Mais c'est Shirley Dino, hein, c'est ça, c'est ça.
Bon, alors, en tout cas.
Mais ils rebondissent toujours, Shirley Dino, vous allez entendre.
Non, mais sur ce point-là,
on s'était trompé.
Ah, oui.
On s'était trompé. Tiens, on, la presse luxembourgeoise et l'interprétation que j'avais pu en faire, puisque certes, ouais, le rapport fait très mal à la famille grand-ducale, mais on n'ira pas jusqu'à l'abdication du grand-duc. Donc, rassurez-vous, on n'aura pas de prochain couronnement au grand-duché du Luxembourg.
Ah, bah, moi, ça me rassure, parce que
voilà,
ça m'empêche de dormir. Là.
Mais il y a un grand-duc héritier, à côté de ça, ils étaient prêts. Mais ce qui était marrant, c'est qu'on a eu le droit 10 minutes après la publication de ce rapport à un communiqué. Alors là, vraiment pour le moins laconique du palais, je vous le lis, ça vient du maréchalat de la cour. Rien que ça, c'est quand même magnifique.
Le maréchalat,
le maréchalat de la cour. Dans un souci d'une plus grande transparence et de modernisation, la cour contribuera de manière constructive à la mise en œuvre des améliorations proposées dans ce rapport. Grosso modo, on n'en a rien à faire, laissez courir. Car le plus dur commence, la cour va quand même devoir apporter des améliorations, ils vont devoir se réformer. On va dire très clairement, la grande-duchesse va devoir se calmer. Et ce qui était très très marrant...
Ah carrément,
était,
vous lui parlez comme ça, la grande-duchesse.
Ce qui était justement très marrant, parce que je sais que je suis le seul autour de cette table à aller regarder le compte Instagram de la famille grand-ducale. Je vous rappelle, c'est cours grand-ducale sur Instagram. Et ils ont posté hier, justement, une photo de la grande-duchesse qui est tout sourire, toute gentille, au chevet d'enfants malades. Si ça,
oh,
c'était
non.
pas la plus belle manière de répondre à Jeannot Varingo, qu'elle est quand même pas si méchante et presque gentille, et ben voilà.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, son invité de jeudi, Léa Drucker, et le quiz qui oppose l'invité, vous le savez, à Eva Rock, un quiz plus ou moins jeune à découvrir dans quelques instants, juste après avoir accueilli justement la comédienne.
À quelques jours de la cérémonie des Césars, on reçoit en toute simplicité celle qui a remporté l'année dernière le César de la meilleure actrice. Bonjour Léa Drucker.
Bonjour.
On est vraiment ravis de vous accueillir pour un très beau film qui sort mercredi prochain, qui s'intitule « Deux » de Filippo Meneghetti. L'histoire doublement rare sur les écrans de deux femmes qui s'aiment, mais en plus de deux femmes d'un certain âge. Vous incarnez la fille de l'une d'elles. Comment vous choisissez, surtout aujourd'hui après le César l'année dernière, un scénario, Léa Drucker? Vous devez en recevoir 10 par jour?
Non. Pas 10 par jour, j'en reçois un peu plus, mais pas 10 par jour, mais c'est, je l'ai choisi comme avant, c'est-à-dire c'est assez instinctif et sensible, quoi. C'est des histoires, je vais vers des histoires qui m'intéressent et des histoires qui me parlent.
Et là, par exemple, c'est un premier film
C'est un premier film de Filippo Meneghetti, ouais. qui est un jeune homme italien qui vit en France, qui parle très bien français, et qui a écrit ce scénario, et qui est un scénario sur lequel il a travaillé longtemps, il a mis du temps à le monter, à le faire financer aussi. Moi je l'ai pas lu en me disant tiens c'est un premier film, je l'ai lu en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce magnifique scénario.
Oui, mais parce que c'est une question qu'on peut se poser, on se dit une actrice qui a eu un César, elle va lire les scénarios en priorité des gens hyper connus qui ont déjà fait 17 films qui sont primés à Cannes et pas un premier film. Et vous faites la démarche de tout lire.
Je fais la démarche de lire ce qu'on m'envoie, ouais. Et puis je fais la démarche de, je réagis de la même manière, je suis pas transformée depuis que j'ai eu le César, je reste la même personne.
C'est formidable.
Mais je suis contente.
D-E-U-X, je le précise. Un très beau film dont l'histoire est autant touchante qu'originale, car elle aborde plusieurs sujets encore tabous, avec beaucoup de délicatesse. Je raconte l'histoire en quelques mots. Nina et Madeleine sont deux femmes, sexagénaires, profondément amoureuses l'une de l'autre. Mais pour tout le monde, elles sont de simples voisines, vivant au dernier étage de leur immeuble. Elles ont un projet, partir vivre librement ailleurs. Léa, vous êtes la fille de Madeleine, vous adorez votre mère, mais vous ne vous doutez pas une seule seconde qu'elle mène, et depuis longtemps, une double vie.
Et non, je suis une fille en effet très aimante et très qui est pour qui fait tout pour qu'il y ait une harmonie familiale, qui doit appeler sa mère trois fois par jour et qui est très fusionnelle avec sa maman et en fait qui va découvrir que sa mère en effet a une double vie et surtout aime une femme depuis 20 ans. Donc tout le modèle parental sur lequel elle s'est construite s'écroule complètement et on va voir cette femme qui est une femme plutôt positive et optimiste s'écrouler et faire quelque chose de très dur, prendre des décisions très dures.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, on a l'impression quand on raconte le scénario comme ça qu'on est face à un drame, mais c'est pas tout à fait un drame.
On sait pas comment définir ce film.
On sait pas comment définir le film. Il y a un côté thriller aussi dans la narration.
Il y a une tension tout au long du film.
Et il y a une poésie et une émotion très forte aussi. Comment vous arriveriez à le définir?
C'est un peu ça. Je pense que Filippo Meneghetti s'est inspiré du genre aussi du thriller pour raconter cette histoire, en tout cas dans l'atmosphère et dans... Il y a quelque chose aussi de très poignant, enfin aussi sur l'histoire. Enfin, je peux pas tout raconter,
mais
il y a un événement dramatique qui arrive et il se trouve que l'autre personnage, le personnage qui est interprété par Barbara Sukhova et qui est donc la voisine, l'amante de Martine Chevalier et c'est le grand amour de Martine Chevalier, qui va devenir presque Et c'est ça qui est tragique, comme un fantôme, quoi. Donc ça parle aussi de la difficulté pour cette génération-là de femmes à pouvoir vivre leur amour tranquillement, sereinement, et au fait qu'il y ait ce personnage de mère qui est très beau, qui est joué donc par Martine Chevalier, qui n'a pas fait son coming out et qui est enfermée dans ce secret vis-à-vis de sa famille, et c'est très lourd.
J'ai lu dans une interview de Filippo Meneghetti qu'il avait pensé à vous avant même les deux premiers rôles féminins du film.
C'est ce qu'il m'a dit. Alors, oui, par chance, il était au festival d'Angers pour présenter un court-métrage et il a vu Avant que de tout perdre de Xavier Legrand.
Qui était le court-métrage qui a inspiré Jusqu'à la garde.
Et c'était le même personnage. Et il a dit au producteur, j'aimerais bien rencontrer Léa parce que il avait déjà cette idée de me faire jouer le personnage de Anne. Donc voilà, j'étais très contente. J'étais très contente quand je l'ai rencontrée, parce que c'est très excitant d'avoir une bonne histoire comme ça et un film aussi audacieux, parce que c'est très rare aussi au cinéma de voir des histoires comme ça.
Oui, c'est un film très différent.
Europe 1, 16h, 18h, L'équipe est sauvage.
Elle est à l'affiche du premier film de Filippo Meneghetti qui sort mercredi prochain et qui s'intitule 2. Léa Drucker est l'invitée d'honneur de L'équipe est sauvage. 2 heures pour booster votre culture G tout en dégrippant vos zygomatiques. Alors aujourd'hui, Léa, on le disait, les scénarios vous arrivent tout cuits pour ainsi dire, mais ça n'a pas toujours été aussi simple. Vous avez eu des débuts compliqués. Vous dites vous-même que vous avez été une vraie ramante. C'est vrai ?
Oui.
Pas mal de petits boulots, pas mal de galères au début.
Oui, mais vraiment, c'est plutôt ce qu'il y a de normal pour un comédien. Bon, les jeunes acteurs, tous ceux que je rencontre, ils traversent tous ça. C'est très exceptionnel quand ça marche.
Que ça marche tout de suite.
Oui.
En réalité, c'est un certain Édouard Baird qui vous remarque et qui vous met le pied à l'étrier. Vous pouvez nous raconter ça ?
Ah, c'est pas exactement ça. Il y a eu un moment où c'était effectivement un peu difficile. Il me fallait un boulot et tout ça, et ça ne marchait pas comme comédienne. Donc j'ai appelé Édouard, que je connaissais, et il travaillait à La Grosse Boule sur Nova avec Ariel Wiesmann. Je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'un boulot, tu n'aurais pas un petit truc à me proposer, assistante, ce que tu veux, un stage. Et il m'a dit, bien sûr ma chérie, pas cet après-midi, on va trouver quelque chose. Donc je suis passée l'après-midi, ils m'ont filé c'était un bebop à l'époque. Et ils m'ont poussé dehors, je ne savais même pas comment ça marchait ce truc-là. Ils m'ont dit, allez tu vas dehors, t'as 2 heures, tu nous trouves 4 personnes pour nous faire dialoguer en direct dans l'émission. Donc je errais dans Paris pendant 2 heures pour demander à des gens s'ils voulaient bien parler, faire des impros avec Ariel et Édouard. Et en fait j'ai fait ça pendant des mois et des mois et c'était génial, je me suis vraiment éclatée.
Vous auriez
ça s'appelait la Tati Mobile. C'était vraiment un de mes sommets, je vous jure que c'était super. Et l'autre jour, il y a quelqu'un de très ému qui m'a dit « Quoi, c'était toi la Tati Mobile ?» Donc, c'était pas rien.
Et vous n'avez pas essayé de récupérer des copains que vous connaissiez pour les faire venir au micro ?
J'ai fait ça quelques fois, mais Édouard le voyait tout de suite. Il m'a dit « Bon, écoute, t'as encore pris un... » Mais je le faisais pas trop, parce que c'était pas ça qui marchait le mieux.
Alors, on peut imaginer, parce que la vie, c'est parfois des rencontres, le succès parfois arrive de manière impromptue. On peut imaginer que vous, aujourd'hui, vous seriez une chroniqueuse radio, vous auriez pu avoir
la radio, vraiment j'aurais adoré faire ça. Je sais pas si j'aurais été hyper efficace et très pertinente.
Avec Tati Mobile, vous l'étiez.
En tout cas, la Tati Mobile, ça se passait bien, mais je sais pas si j'aurais été capable de faire carrière à la radio, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore écouter la radio.
Mais nous, on vous garde hein, comme chroniqueuse
oui,
de la radio.
Bah, ça va nous coûter cher.
Après,
mon ami, elle n'est pas donnée, si tu veux. Alors, Léa Drucker, durant vos années de galère, il y a un 06 que vous auriez pu composer. Quelqu'un d'assez puissant dans le métier, qui est votre oncle, et que je connais bien aussi pour avoir bossé avec lui. C'est d'ailleurs l'invité de rêve de toute intervieweur, faut le dire. Tu dis bonjour Michel, et derrière il peut dérouler tout seul pendant une heure en se relançant lui-même.
J'ai une mémoire.
Oui.
J'ai une très grande mémoire.
Oui, Michel.
J'ai passé mes diplômes de pilote d'hélicoptère.
Oui, oui.
Je pilote des avions.
Oui, oui.
En ce moment, je travaille sur un bimoteur. Je vois quand même un film par jour.
Michel.
J'interviewe sur le plateau de Vivement Dimanche une vingtaine d'invités.
Michel, c'est pas
l'opinion,
Michel.
Je vois tous les films,
oui.
Je lis tous les bouquins.
Bah, Michel, on vous interviewera une autre fois. Bon, comme je l'adore et qu'il est votre oncle, j'ai décidé, ma chère Léa, d'un quiz autour de Michel Drucker. C'est très simple, c'est un peu trash, mais je suis sûr qu'il adorerait l'idée. Nous allons jouer à
ou pas.
Plus ou moins. Ah, si, parce qu'avec ce que je lui ai mis dans la gueule pendant 2 ans, je sais qu'il va aimer ça. Nous allons jouer à plus ou moins jeune que Michel Drucker.
Oh,
le principe est simple. Je vous donne des événements, des objets, différentes choses. Vous me dites s'ils sont plus ou moins jeunes que notre Mich-Mich adoré. Eva Rock, on commence avec vous.
C'est terrible.
La Fédération Mondiale de Curling, plus ou moins jeune que Michel Drucker.
Ah, non, plus vieille que Michel Drucker.
Plus vieille que Michel Drucker,
oui.
C'est une mauvaise réponse.
Bah,
1966,
oui. Curling.
Enfin, le curling Eva quand même, donc
enfin.
Plus jeune que Michel.
Bah oui, non, on aurait pu l'avoir. Moi je pensais que ça remontait au 19e.
Ouais. Non mais ne commencez pas à partir dans une direction. Vous n'avez pas marqué de points, c'est tout ce qui compte.
D'accord.
Léa, la climatisation dans les voitures, plus ou moins jeune que Michel Drucker.
Bah, c'est plus jeune.
Et non, 1939, donc moins jeune que Michel. Même les vitres électriques sont moins jeunes que Michel. Leur arrivée date de 1941.
La clim en 1930.
Ah ouais, si, ouais. Vous savez, Eléa, il y avait des Rolls en 1939.
Au Chat Noir, il y avait la clim, au Moulin.
Mais dans les Rolls déjà. Eva Rock,
oui.
Cette chanson...
Ah, le petit vin blanc...
Est-elle plus ou moins jeune que Michel Drucker?
Non, c'est plus vieux que Michel Drucker,
bien sûr.
Réponse 1943, donc plus jeune que Michel.
Non,
le petit vin blanc est plus jeune que Michel
43.
Drucker, écrite par Jean Dréjacques. Léa Dumbo, film de Walt Disney qu'on a tous aimé, qui nous a tous parfois fait pleurer. Dumbo, plus ou moins jeune que Michel Drucker?
C'est dur. Hein. Ouais. Ben, je dirais... Plus ou moins jeune.
Oui, plus ou moins jeune que Michel Drucker.
Moins.
Et oui, 1941, Dumbo est moins jeune que Michel. 1939, la création du personnage. 1941, le film Disney. Dans les deux cas, Michel Drucker est plus jeune. Eva Rock, deux Stromae. Plus ou moins jeune que Michel Drucker.
Quoi?
Deux Stromae.
Ça veut dire quoi, deux Stromae?
Un Stromae plus un autre Stromae.
Deux fois. Oh là là, quel âge il a, Stromae?
Ben, je dirais plus jeune que Michel Drucker.
Plus jeune que Michel. Eh oui, si on multiplie l'âge de Stromae par deux, il est quand même plus jeune que Michel. Léa, Bob Dylan. Ça, c'est intéressant. Bob Dylan, plus ou moins jeune que Michel Drucker?
Elle réfléchit.
On est en train de perdre Léa Drucker.
Moi, je crois moins.
Bob Dylan est effectivement moins jeune. Il est plus vieux que Michel Drucker. 1941, naissance de Bob Dylan. On sait maintenant que Dumbo a le même âge que Bob Dylan. Et ça, ça fait toute la différence. Et Baroque? Attention,
grande oreille.
Ça,
c'est pour ça que c'est un grand musicien.
Ça, certainement. Attention, ça c'est intéressant. Le bikini, plus ou moins jeune que Michel Drucker?
Non, j'aurais dit plus vieux que Michel Drucker.
Le bikini est plus jeune que Michel Drucker. Il date de 1946. Alors certes, en 1932 a été lancé le maillot de bain deux pièces, mais la culotte ne dévoilait pas le nombril. Non, ce n'était pas un bikini.
Je pensais au maillot deux pièces.
Oui, mais vous pensiez mal.
D'accord.
Et enfin, la question qui va vous départager, Léa, le panneau stop en France. Plus ou moins jeune que Michel Drucker?
Non, mais la
Mon
personne
Dieu,
qui a écrit le quiz.
De réfléchir à ça. Alors, le panneau stop,
Je
dirais
connu.
Plus jeune.
Et oui, c'est encore une bonne réponse. C'est le 22 juillet 1954 que le panneau stop est adopté officiellement. Donc, il est beaucoup plus jeune que Michel Drucker. C'est évidemment Léa Drucker qui remporte le quiz.
Bon, bah merci. Maintenant, je vais devoir me fendre d'un coup de fil pour m'excuser d'avoir participé à ce quiz idiot.
Jean-Philippe.
Je voudrais juste qu'on donne le nom de l'esprit malade qui invente ces quiz.
Oui. Ah oui.
Alors, je vais tout vous dire. Il s'appelle Sébastien Bordenave. Et hier, je l'ai félicité pour l'idée de ce quiz que je trouvais particulièrement vicieuse. Il m'a dit « T'es sûr, c'est pas trop trash ?» Je lui ai dit « C'est bon, je connais Michel, je lui passe un coup de fil derrière. »
On l'embrasse, Michel.
Léa Drucker passe l'après-midi sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1.
L'équipée sauvage.
Un économiste a découvert la courbe du bonheur. On en a parlé dans l'équipée sauvage cette semaine sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Mathieu Noël, Eva Rock et maintenant avec Axel de Tarlet en compétition pour le titre de chroniqueur du jour. C'était ce lundi en présence du rappeur Oxmo Puccino.
Ces derniers temps, malgré nos encouragements, le dauphin d'or fait grise mine. Pour preuve, sa prestation laborieuse de jeudi dernier. Voici notre troisième candidat, notre expert éco Axel de Tarlet.
Allez Axel, allez Axel,
allez Axel,
allez. T'as pas le sujet le plus sexy du départ, mais bon.
Et comme j'ai à peu près déjà tout dit dans le teasing.
C'est bien, on a la gagne, on a la gagne.
Alors, dans les Alpes, le réchauffement climatique a deux fois plus d'effet. On appelle ça la... attendez, j'ai pris des notes.
J'ai pris des notes, ça partait très bien. Alors Axel, où on se ressaisit aujourd'hui? Là pour l'instant, la Ligue 2 te tend les bras, mon grand. Hein. Donc avec quoi allez-vous rebondir aujourd'hui, Axel?
Avec le bonheur.
Ah oui,
et une étude très sérieuse. Une étude très sérieuse, que c'est un économiste, un universitaire américain qui a fait cette étude en étudiant 500 000 personnes dans 132 pays. Et j'ajoute.
Ça fait déjà rire Oxmo. Je sens qu'Oxmo sent que tu vas déraper.
Déraper? Oh là là.
Vous avez écoutez, moi je m'en vais, je vais sur Skyrock.
Déjà, le bonheur emplit ce studio depuis que je suis là.
Ah oui.
Donc, la courbe du bonheur, c'est une courbe en U. C'est-à-dire que vers 20 ans, c'est la vie professionnelle, on commence très haut, puis le bonheur baisse, et à la fin, il remonte.
Mais comment ça, pour tout le monde ?
Pour tout le... Oui, c'est ça qui est surprenant. Bah, c'est qu'il a étudié la courbe du bonheur, enfin le bonheur, dans 500, je vous ai dit, dans 132 pays, partout la courbe est la même, partout c'est une courbe en U, le bonheur chute. Alors à votre avis, on est au fond du trou à quel âge ?
Oh bah, à 37 ans, là, à mon âge.
Non, plus âgé.
33 ans ?
On est au fond du trou à 47 ans et 2 mois. Et c'est pareil dans tous les pays. Alors pourquoi est-ce que la fin de la quarantaine...
Vous avez quel âge, Oxmo ?
J'ai 45.
Encore 2 ans,
encore 2 ans de bonheur, Oxmo. Profitez-en bien.
Ah, je vais gratter.
Non, non, parce que ça baisse petit à petit le bonheur. Ça baisse.
Mais ça remonte après.
Mais ça remonte après. Alors pourquoi est-ce que la fin de la quarantaine est le moment où on est né le moins heureux, donc le plus malheureux ? Parce que familialement, on a beaucoup de pression. On a les enfants qui commencent à vous coûter très cher. On se dit, oh là là, il y a les études du petit, etc. On a les parents qui ne sont pas encore morts, mais qui ne vont plus très bien. Donc, c'est ce qu'on appelle la génération sandwich, où on s'occupe à la fois de ses enfants et de ses parents. On a beaucoup de pression sur les épaules. Mais vous pourriez me dire, oui, mais en même temps, d'un point de vue professionnel, c'est l'âge...
On est au top.
Où on est au top. Alors, effectivement, on est au top, vous avez tout à fait raison. Mais justement, être au top, ce n'est pas ça le bonheur. Parce que quand on est au top, on n'attend plus rien. C'est l'âge, 47 ans, où voilà, on commence à se dire, bah, ça y est, ma vie professionnelle est faite, je n'aurai plus d'avancement. Certains commencent à avoir des regrets, tiens, mais finalement, j'ai un peu raté ma vie professionnelle. D'autres ont peur du déclassement, ils disent, tiens, mais il y a le petit jeune qui arrive qui est moins cher, qui va me piquer la place. Donc vous voyez, on est peut-être au top, mais on se dit, je n'ai plus rien de mieux à espérer. Donc si on se résume, 47 ans, c'est l'âge où on a beaucoup de soucis, et peu de perspectives que ça aille mieux. Alors, vous me posiez la question, vous me disiez, est-ce que l'argent fait le bonheur ?
Ah oui.
Eh bien, on a la réponse, là. 47 ans, c'est l'âge, le moment de la vie où on a peut-être le plus d'argent, et c'est le moment de la vie où on est le plus malheureux. Preuve que la recette du bonheur, ça n'est pas avoir, c'est espérer, c'est attendre mieux, c'est avoir des projets pour que ça aille mieux. Alors, pourquoi après 47 ans, ça ? Parce que c'est quand même la bonne nouvelle de cette enquête, c'est qu'après 47 ans, la courbe du bonheur remonte. Mais parce qu'après 47 ans, on commence à se satisfaire de ce que l'on a. C'est le début de la sagesse. Elle est pas belle, ma courbe du bonheur ?
Elle est géniale.
Non, c'est pas mal.
C'est mieux un U qu'un bas de rectangle, en fait. Donc oui, ça arrive doucement.
Ça oui, doucement. Le tout, c'est que ça
faut être patient, quoi.
Ouais.
Voilà. Et quand est-ce que... Vous nous avez pas dit quand est-ce que ça remonte, cette courbe ?
47 ans et 2 mois. À partir
de là,
le bonheur remonte.
C'est le plus bas.
Et le point haut du U.
Alors, c'est 70 ans. À partir de 70 ans, l'impression de bonheur se stabilise. Mais ça ne fait que monter entre 47 ans et 70 ans.
Mais ce qui est étonnant, c'est que ça soit comme ça dans tous les pays. Oui. Moi, c'est ça qui m'étonne.
C'est comme quoi il y a une humanité du bonheur. Alors, il y a un petit décalage. Ils ont fait pays riches et pays en développement.
Ouais.
Mais c'est quasiment le même. C'est 47 ans dans les pays riches et 48 ans dans les pays en développement. Et le U est caractéristique de tous les pays.
Et chez les hommes et chez les femmes.
Ouais, alors ne me demandez pas non plus trop.
Ne me demandez pas trop, il n'a pas bossé non plus énormément. Il a juste chopé une étude sur Internet. Enfin, Eva, vous allez dévoiler les secrets de fabrication de cette émission. Enfin, vous êtes folle.
C'est bon. Désolée.
Surtout quand oui, qu'il ne relance pas, ne le relancez pas. Moi, je le connais, Axel Lou. Hein. Je le connais bien.
Mais non, mais parce que dans ces cas-là, c'est le moment où je cite, vous savez, pour faire chic, il faut citer The Economist, qui est la référence absolue dans le journalisme. Et donc, le grand rédacteur en chef de The Economist disait, le journalisme, c'est simplifié, exagéré. Donc, ce que je m'évertue à faire tous les jours.
C'est sûr que mon cochon t'a bien retenu la leçon. Ça, c'est sûr. On parlait d'être au top de sa carrière. Est-ce que vous, Oxmo Puccino, aujourd'hui, vous devez réfléchir différemment que dans les années 90, quand vous composez un album ? Il y a une telle concurrence, surtout au sein du rap français. Il y a des algorithmes sur Deezer, sur Spotify. Est-ce que vous, en composant, vous pensez à ça, à cette concurrence ?
J'y ai pensé. Et j'ai encore trouvé le
vous
truc.
Vous trouvez toujours les réponses, vous.
Bah, c'est le but, je veux dire. Ouais. On trouve des réponses, on se sent mieux et puis on va en chercher d'autres. Je pense que c'est un cheminement normal. Pour moi, j'ai deux choses qui sont géniales. J'ai l'entourage, l'expérience et le plaisir que je tire de ce que je fais. À partir de là...
Mais parfois, vous renoncez au plaisir parce que je me suis laissé dire que cet album, vous vouliez le faire en acoustique d'abord, dans un premier temps.
Au début, je voulais faire en acoustique. Et ensuite, je me suis rendu compte, on m'a fait me rendre compte qu'il y aurait beaucoup moins de monde au concert.
Ah oui.
Mais donc, il y a quand même quelques. On est, même quand on est Oxmo Puccino, on doit faire quelques compromis.
Non, c'est des arrangements. Mmh. Bah, de toute façon, un artiste, il ne sait pas où il veut aller. Il ne fait que chercher. Donc, je continue à chercher jusqu'à ce que ça fasse plaisir à tout le monde. Et après, je suis content. Ouais, je veux dire, on est sûr de rien. C'est ce qui est beau dans la vie d'artiste. C'est que vous n'êtes pas sûr d'où vous allez. C'est vous arrêter à chaque trouvaille en espérant que tout le monde soit content.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Et l'équipe est sauvage se poursuit juste après les infos de 17h sur Europe 1 avec Mathieu Noël et Nicolas Caro qui s'est intéressé à ses poèmes qui se transforment en chansons. Jérôme Lacroix, lui, nous parlera durant l'heure qui suit eh bien, de l'origine totalement méconnue des tapis de course. Et puis Alain Sirou a choisi d'évoquer le lien entre le cerveau et le corps. Bon après-midi à tous.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
2 heures de découverte, d'infos, de bonne humeur. L'équipée sauvage, la compilation du week-end qui se poursuit avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock, et dans le cadre de la compétition avec les journalistes de la rédaction d'Europe 1, dont l'objectif, je le rappelle, est de captiver l'invité avec leur meilleur sujet pour décrocher le titre de chroniqueur du jour. Ça se passe comme ça, tout du moins la semaine. Côté invité, on va retrouver la chanteuse Imani, la comédienne Léa Drucker, notre chroniqueur culinaire Laurent Mariotte, le rappeur Oxmo Puccino, ou encore le duo Elise Moon, Florent Père, venu lors de l'émission en public nous voir, c'était vendredi 31 janvier.
Public dont l'hystérie est légitime, puisque outre Elise Moon et Florent Père, qui sont contents de voir aussi, nos spectateurs espèrent surtout pouvoir faire un selfie avec Nicolas Caro. Le beau gosse du journalisme littéraire, à qui il arrive même de jouer de sa ressemblance avec Nicolas Bedos pour réserver des tables au resto, c'est ce qui se murmure dans Paris. Alors évidemment, journaliste littéraire, ça claque. On imagine tout de suite un être d'un raffinement extrême, chez qui tout est élégance. Par exemple, nous, pour tester le micro avant l'émission, on fait tous 1-2-1-2 ou Paris, Bordeaux, Le Mans. Mais que dit un grand journaliste littéraire lorsqu'il teste un micro? Récite-t-il quelques vers de Mallarmé, un quatrain de Rimbaud? Découvrons-le.
Petit essai, les amis.
Put 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 put.
Ah ouais, d'accord.
Put put. Ah, c'est, je connaissais pas ce poème-là.
Ah non.
Ah non, non, non. Comme quoi, l'œuvre de Rimbaud est vraiment éclectique. Nicolas Puput, les présentations étant faites, nous vous écoutons. Vous nous parlez justement de poésie cet après-midi, Nicolas.
Bit nichon, bit nichon. C'est bon, mon micro est ok.
C'est mon nouveau poème. Je suis content. Je suis inspiré ce matin.
C'est un fou de poésie, donc.
Ah, j'adore la poésie.
Et il écrit aussi des chansons. Et j'avais envie, ça m'a donné envie de parler des liens qu'entretiennent la chanson et la poésie, parce que ça a l'air évident, mais pas tant que ça, finalement. Un poème, c'est déjà une chanson en soi, normalement. Un poème, c'est censé être sonore, déjà, ben c'est oui. Ça. Un poème, c'est agencer les mots de telle manière qu'une musique s'en dégage. Mais c'est vrai que c'est pour cette raison aussi que c'est un peu tentant de les mettre en musique, comme Yves Montand, par exemple.
C'est un trou de verdure où chante une rivière.
Rimbaud. Ah, oui. Bravo, le dormeur du Val.
Passer de la compagnie créole à ça, c'est, ouais. c'est osé.
Il y avait Gainsbourg qui était très fort aussi pour ça.
Sur ta chevelure profonde, aux âtres parfums.
Eh ben, il se fout pas de notre gueule, Elise Moon.
J'ai même pas fait un blind test, je me suis dit personne va trouver.
Facile.
Bravo, le serpent qui danse de Baudelaire, ouais. Donc par Gainsbourg. Mais Gainsbourg, il a une manière de dire qui permet ça. Montant, ça marche moins déjà. Ah,
oui,
je trouve,
pour Léo Ferré, ça marche très très bien.
Il y a une autre catégorie, ce sont les chansons écrites par des poètes, mais qui sont des chansons. Enfin, ils les ont écrites pour être des chansons, pas pour être des poèmes.
C'est une chanson.
Jacques Prévert.
Qui nous ressent.
Élie, arrêtez de nous insulter avec votre culture générale, Élie.
Chanté par Yves Montand, mais écrit par Prévert, ouais. Absolument. Il y a Maurice Vian aussi.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps.
Et ça, c'est pareil. Ça aurait pu être un poème, mais ça a été écrit spécifiquement pour être chanté. Ça change tout. Et alors, il y a aussi
le déserteur. Il faut le
voilà, le déserteur de Boris Vian. Il y a ceux qui ne sont pas écrivains, qui sont de purs poètes, mais qui sont aussi musiciens. C'est encore une autre catégorie, comme le prix Nobel de littérature.
Come gather round people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched.
Donc c'est Bob Dylan, the times they are changing, et c'était intéressant qu'il ait le prix Nobel de littérature justement pour ça, parce
ça avait fait débat, non ?
C'est de la littérature, ces chansons. Quand on lit ces chansons, ce sont des vrais poèmes, mais évidemment, comme tout à l'heure, il les a écrits pour justement être chanté. Donc ça change tout. Et puis, il y en a un dernier, c'est l'invitation au voyage de Baudelaire. Et ça, je crois que c'est la plus émouvante des chansons construites à partir d'une poésie.
Suis-moi là, oh. Tous les corps et beautés, luxe évolué.
Ah, quelle horreur.
Qu'est-ce que c'est que cette version ?
C'est dégueulasse.
Nicolas Caro.
C'est le groupe Poésie, mais en fait, c'était les Inconnus.
Ah ouais, ah d'accord.
On a eu peur.
Non, c'est les Inconnus, Baudelaire. Ouais, ça, c'est le groupe Poésie.
Vous auriez pu choisir Léo Ferré. Ah ben il a repris tous les poèmes de Verlaine, de Rimbaud.
Mais vous aussi,
de...
vous avez donc chanté une chanson à partir d'un poème de Victor Hugo.
Une chanson de Victor Hugo, demain, comme vous nous disiez tout à l'heure. Très bonne chanson de Victor Hugo.
Demain dès l'aube.
Il y a, non, oui, il y a aussi cette chanson qui fait « Ah, qu'est-ce qu'on est serré
de cette qu'est-ce boîte. » Qu'est-ce qu'il est con, c'est pas vrai.
« Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines.
Chante les sardines. » C'est beau. Il y a une redondance comme ça.
Entre l'huile et les aromates.
Ah, ah mais faites
qu'est-ce
taire.
Qu'on est serré au fond
mais
de
ferme
cette
ta gueule. Arrête, Florent. T'es en train d'humilier la poésie et de foutre en l'air la promo du Cobu. Merde, Ellie, c'est pas vrai.
Ellie, avec Eva, on a vu du Cobu 3, mais on a hâte de voir les bonus, les coulisses du tournage. Parce que,
mais
à mon avis, ça va être sympa.
Il n'y en a pas eu tant que ça. En fait.
C'est vrai
mais on s'est bien marré. Hein, mais... Non, on n'a pas eu de bêtisier. Quasiment pas de bêtisier. C'était sérieux, en fait. Vous savez, c'est sérieux de faire une comédie.
C'est sérieux l'humour.
C'est sérieux
mais
l'humour.
Ça se sent, toujours. Si je peux me permettre, ça se sent dans la réalisation. Parce que vous parliez tout à l'heure de pas d'improvisation avec les comédiens. Mais on sent aussi que vous avez vraiment travaillé la réalisation. L'image, elle est vraiment, c'est très cadré. Oui. Les décors sont...
Il a bien tenu la petite caméra avec
ses
petites mains.
Non, mais les décors sont très réussis. Et les plans sont très réussis, franchement. Et les décors, il y a plein de références aussi que les adultes comprendront.
Oui, Shining,
voilà, Shining, Psychose, etc.
Il y a divers degrés de lecture.
Oui, exactement.
Oui, oui, d'ailleurs... Quand on a fait notre projection au Rex, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah bah je ne m'attendais pas à ça, un adulte hein. ». Et ça m'a vexé, je me suis dit « Ah bah tu t'attendais à quoi, pauvre con un film
toujours
pour enfants ?»
Tu lui as dit oui, « Vous toujours avez avec votre spectateur, Ellie. Vous avez toujours su cultiver. »
Ça voulait dire « Je m'attendais à voir un film pour enfants et basta, à m'emmerder à côté de mon fils qui regarde le film et à envoyer des textos. » Mais pas du tout, ça plaît aussi aux adultes, ouais. Ça fait beaucoup rire les adultes.
Sur Europe 1,
l'équipé sauvage.
Et le week-end, on se replonge dans les moments marquants de la semaine écoulée. On reste avec Mathieu Noël, bien sûr, Eva Rock. Et l'invité de ce mercredi, c'était Laurent Mariotte, dont le dernier livre a pour titre « Mieux manger toute l'année, mes 365 recettes, mes conseils, mes astuces ».
Accueillons notre invité du jour. Pour une spéciale bien vivre et mieux manger, qui était le mieux placé? Qui était le plus légitime pour nous accompagner cet après-midi? Alors non, pas Olivier Pouls. Pas Olivier Pouls, c'était un peu gros, vu qu'il bosse déjà avec nous tous les jours. Mais on n'a pas tapé trop loin non plus, puisque c'est notre collègue Laurent Mariotte qui s'apprête à passer l'après-midi avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Bonjour.
J'adore le générique, Champs-Élysées.
Pour vous, on a mis le paquet.
On ouvre les portes et les voitures.
Ah, bah, évidemment. Alors les téléspectateurs de TF1 vous connaissent bien, je dirais même qu'ils ne connaissent que vous. Quant aux auditeurs d'Europe 1, ils vous retrouvent chaque samedi dans la table des bons vivants à 11h. Table des bons vivants, voire des très bons vivants, où même la grande patronne d'Europe 1, Constance Benquet, vient parfois taper une paupiette.
Alors, c'est normalement, vrai. Moi, j'aime pas les paupiettes. Et alors là, j'ai quasiment fini ma paupiette. Et j'ai fini mon verre de vin.
On embrasse Constance, bonne vivante aussi. Alors, on va parler de vos émissions, de
paupiette
votre passion.
De Pierre Gagnère. Hein.
En plus, oui. Ah, forcément, non, même quand on n'aime pas la paupiette.
Ah, oui,
là,
on est obligé d'aimer. Là. Ouais.
On va parler de ce livre. Alors, je le dis sans flagornerie, pas parce que vous êtes un collègue, mais vous me l'avez offert l'année dernière déjà, vous avez cette gentillesse. Et vraiment, c'est fabuleux. C'est-à-dire que quand on est, comme moi, un peu novice en cuisine, il y a une recette par jour, ça s'appelle « Mieux manger toute l'année ». Là, c'est le modèle 2020. Et tous les jours, on n'a pas à se fatiguer, on regarde la recette et hop, on la suit. C'est ça que j'adore. Par exemple, le 3 avril, on mangera des jeunes poireaux sauce gribiche. C'est comme ça, c'est
oui,
écrit.
Exactement.
C'est Laurent Mariotte qui l'a dit.
Voilà,
mais c'est plus simple finalement.
Et c'est simple et c'est bon marché. Comme on dit, ça coûte pas cher. Et il n'y a pas que des recettes, il y a plein d'astuces aussi pour faire ses courses en fait. Voilà.
Alors pour ceux de nos auditeurs qui se disent « mais on n'a pas le temps, on est fatigué après une journée de travail », qu'est-ce que vous leur dites? Quel est l'argument massue
Je
pour
dis
dire
souvent que c'est un faux
cuisinons.
Prétexte, le manque de temps. En fait, on a toujours une demi-heure à glander sur son canapé, sur les réseaux sociaux, sur son smartphone en rentrant à la maison.
On remplace Instagram par...
Non, mais qu'il faille décompresser, on est d'accord. Mais accordons-nous une demi-heure par jour en cuisine. C'est pas énorme une demi-heure, mais je vous assure qu'en une demi-heure, on peut en faire des choses. Peut-être qu'on n'a pas le temps de cuisiner tous les jours, je suis d'accord. Mais moi, j'ai fait ce livre, en fait, pour qu'on garde un lien avec le geste de cuisiner au quotidien. Et des trucs hyper simples. Moi, je suis pas un chef. Hein. C'est une recette de tous les jours. Donc, ce que vous dites, là, les poireaux. Comme ça, cuit à la vapeur avec une sauce gribiche, c'est fait vraiment en une demi-heure.
Il y a cette idée que chaque recette est elle est réalisable par quelqu'un qui n'est pas un.
Ah oui, quelqu'un comme vous. C'est-à-dire que voilà,
je vous ai regardé.
Quelqu'un de normal. Non, mais l'idée, c'est qu'en semaine, on va prendre des recettes qui vont effectivement assez vite à réaliser et à cuire aussi. Et en week-end, on se lâche un peu plus avec le bourguignon, la blanquette de veau, des choses un petit peu plus longues. Mais encore une fois, comme je le dis souvent, c'est pas la préparation qui est longue, c'est la cuisson. Et pendant que ça cuit, on fait autre chose de toute façon.
Et l'autre argument, c'est souvent de dire mais ça coûte cher la nourriture aujourd'hui, de cuisiner, etc.
Attention, il va ne dire pas n'importe quoi. Il va s'énerver, Laurent.
C'est tout le contraire.
On parle des préjugés qu'on a autour de la
cuisine.
Mais
vous avez raison, ça coûte moins cher. C'est pas moi qui le dis, là. Pour le coup, il y a eu des enquêtes de 60 millions de consommateurs et d'autres magazines. On prend un plat préparé, par exemple. Vous prenez, je sais pas, des Saint-Jacques avec une fondue de poireaux dans le plat préparé. Vous prenez les mêmes ingrédients, vous faites la même chose à la maison. Ça vous coûte entre 2 et 3 fois moins cher. Donc ça, c'est une réalité. Ouais.
Anis Mbida.
Mais est-ce que les recettes sont scientifiques? Parce que moi, j'ai un problème avec les recettes. C'est qu'on dit qu'il faut saler, poivrer. Réchauffer à feu doux, mais feu doux c'est combien de degrés, salé c'est combien de sel. Moi j'ai un peu de problème avec la cuisine.
Vous n'avez jamais cuisiné en fait?
Bah non, moi je suis un super handicapé, encore pire que Mathieu.
Vous savez quoi, il faut goûter, tout simplement, c'est votre palais qui va vous dire si c'est tourné, bien sûr.
Et puis on se dit, là je rajoute un peu de sel,
mais c'est cru.
Il faut, voilà. Non, mais en cuisine, il ne faut pas avoir peur de se gourer. On a le droit de se planter, on a le droit de se tromper. En tout cas, il faut oser. Et une recette, ce qui est bien avec le salé, c'est qu'on peut en général toujours la rattraper par rapport à la pâtisserie qui est très technique et très précise.
Mathieu Charrier.
La grande frustration de cuisine, c'est que souvent, il faut l'épice qu'on n'a pas, la petite herbe, machin,
truc. Il faut redescendre.
C'est toujours des trucs. En fait, on se dit, eh mince, ça, je l'ai pas.
Je le dis, on achète une bonne fois pour toutes la bonne gamme d'épices, la noix de muscade, le sel de céleri,
expliqué.
Si on veut, effectivement.
Au début, vous nous dites,
je
le
raconte,
ça,
ce que j'appelle les basiques du placard. Quoi, voilà. Et moi, j'aime pas non plus, effectivement, avoir trop d'ingrédients dans les recettes parce que c'est compliqué. Donc, mon postulat de départ pour chaque recette, c'est un produit de saison. Et ensuite, on fait avec les ingrédients du placard. Et on peut même faire ce que j'appelle de la semi-cuisine. Pareil, il faut se décomplexer. Un produit frais, c'est un produit de saison, vous avez l'air très inquiet.
Non, ça me plaît, la semi-cuisine.
Oui,
je pense que je pourrais devenir un grand chef de la semi-cuisine.
Et une boîte de thon, une boîte de maïs, vous faites une soupe de maïs avec une boîte de maïs, par exemple, que vous allez upgrader, comme on dit, avec un petit peu de coriandre fraîche et puis quelques épices, c'est tout simple. Et la boîte de thon qui peut faire une sauce pour les pâtes, enfin, faut pas avoir peur, faut pas avoir de complexe en cuisine.
Bah, je n'ai pas peur, je suis juste nul.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Dans votre livre « Mieux manger toute l'année », vous nous proposez donc une recette par jour, mais s'il ne devait en rester qu'une, c'est quoi votre spécialité? Le truc que vous... Votre botte secrète?
Je suis très blanquette en ce moment. Ouais, j'adore la blanquette.
Votre blanquette est bonne?
Ouais, ma blanquette est très bonne. J'adore la blanquette et voilà, c'est un truc que j'adore faire. J'ai trouvé un boucher à côté de chez moi qui fait venir un joli veau bien élevé bio en Corrèze qui est magnifique. Donc voilà, avec une belle blanquette bien crémée, les carottes, les poireaux que je n'utilise pas uniquement comme garniture aromatique, mais que je remets en garniture tout court à l'intérieur de la blanquette. Voilà.
Et une question, est-ce que c'est compliqué à faire une blanquette
pas
de veau?
Pas du tout. Non, franchement.
Ça prend combien de temps?
Ça prend 1h30 de cuisson, une grosse heure et demie de cuisson.
Mais
il y a un bon 3/4 d'heure de préparation. Effectivement, il faut pocher la viande d'abord. Ensuite, on va utiliser le bouillon qui aura permis de pocher la viande pour faire notre sauce en fait à base d'une béchamel. C'est comme une sauce blanche, si vous voulez. Hein, c'est pas une béchamel parce qu'on met pas de lait, mais on va prendre le bouillon pour mettre avec du beurre et de la farine qui est un roux et faire notre sauce qui sera bien appante autour
appante. Voilà, j'ai l'eau à la bouche. La spécialité de Laure Mariotte, c'est donc la blanquette de veau. Mais vous, chers amis, quelle est votre spécialité? On est allé vous poser la question.
J'aime bien faire des pâtes carbo.
Couscous royal.
Je mets des allumettes. Je mets pas lardons. Moi, je mets des allumettes parce que j'aime pas les lardons.
Mais moi, ma spécialité, je suis ivoirienne. C'est la sauce gombo. La sauce avec du gombo.
Moi, je prends des plats tout préparés. Alors, vous voyez le truc.
Oui, c'est le goût de gombo.
Un bécaof. Veau, bœuf et un pied de porc.
Faut pas être au régime.
c'est pas moi qui cuisine. C'est ma femme qui cuisine. Non, ça craint pas. Pourquoi? Moi, je fais pas la cuisine, je travaille, c'est déjà pas mal.
Je vous invite pas à dîner chez moi ce soir.
Ah si. Moi, je peux vous faire un bar grillé à la plancha. Et en dessert, je vous fais des petits abricots au miel cuits à la plancha. Avec ça, on boit un petit Bordeaux et puis en entrée, un petit tchakouli du Pays Basque.
Laurent Mariotte, tous les jours à TF1, il présente un plat.
Laurent Mariotte, il est beau. Il me plaît.
Sans oublier le parmesan.
On mange bien sur Europe 1.
Visiblement, le fantasme de la femme française en 2001, c'est Laure Mariotte avec un peu de parmesan dessus. Visiblement, c'est ça le truc qui excite nos auditrices. Alors, Laure Mariotte, ce 5 février, on l'a dit, c'est la journée mondiale d'une célèbre pâte à tartiner qu'on ne citera pas. Est-ce qu'il vous arrive, vous-même,
d'utiliser des aliments honteux
bien
dans vos recettes.
Bien sûr, mais j'en ai dans mon placard, franchement, pour vous dire la vérité, j'en ai, bien sûr, oui. Je l'ai déjà dit, mais voilà, je peux tremper ma cuillère dans une danette de temps en temps, vous voyez ce que je veux dire.
Ah oui, même
voilà,
vous.
Oui, voilà, ça m'arrive, il y a des trucs un peu régressifs, mais voilà, j'en achète pas une tonne et j'en achète pas tout le temps, quoi, effectivement.
On ne mange pas que bio chez Laurent Mariotte.
Non, mais voilà, il faut se faire plaisir, la cuisine, c'est avant tout du plaisir, on n'arrête pas d'avoir des interdits de tous les côtés, si on n'a pas le droit de faire un petit interdit de temps en temps, c'est en faisant justement des interdits de temps en temps qu'on retrouve le plaisir justement des bonnes choses.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Avec Mathieu Noël, sa complice Séva Rock, l'invité de jeudi, la comédienne césarisée Léa Drucker, à l'affiche du film 2 de Filippo Meneghetti, en salle mercredi prochain, et avec Jérôme Lacroix, qui va nous parler à présent de l'un des équipements sportifs les plus vendus dans le monde.
Jérôme, certains objets ou machines qu'on voit ou utilise tous les jours ont une origine assez insolite, parfois même terrifiante.
Ouais, écoutez ce bruit sourd. Ce roulement, 70 000 Français achètent chaque année un tapis de course, oui, pour garder la forme, faire fonctionner le cardio. Alors certains d'entre nous le voient.
Visiblement,
comme une...
pas Olivier Pouls qui est en régie avec nous, notre expert gastronomique, et qui ouvre des grands yeux. Il est effaré par ce chiffre, il est choqué.
Peut-être le voit-il comme une machine infernale, un instrument de torture. Oui, voilà, le mot est lâché parce que, oui, le saviez-vous, avant d'atterrir dans nos maisons et nos salles de sport, eh ben, les tapis de course, on les trouvait dans les prisons. Tout commence avec ce monsieur, William Cubitt, Sir William Cubitt.
Que vous retrouvez en vidéo sur Europe 1.fr.
Un ingénieur britannique réputé, hein, au début des années 1800, chargé donné à ce monsieur d'inventer quelque chose pour faire en fait bosser les prisonniers dans les geôles du royaume. Parce que à ce moment de l'histoire britannique, on veut réformer le système carcéral qui est jugé trop laxiste. Les détenus, on les dit oisifs, passifs. Et nombreux surtout, parce que c'est la crise économique, beaucoup de pauvreté, et certains avaient l'idée de larciner à droite à gauche pour être finalement pas trop mal derrière les barreaux, nourris gratuitement. Alors, il faut endiguer ce phénomène. Les autorités disent, on va les brusquer, les bagnards. Alors, ils utilisent l'invention de ce monsieur, Sir William Cubitt. Alors, il faut imaginer, je vous montre encore d'autres images si vous êtes avec nous sur Europe 1.fr, il faut imaginer comme un gros cylindre XXL, comme un gros rouleau compresseur,
c'est un stepper, quoi.
Long de plusieurs mètres, voilà, alors auquel on va fixer des crans, comme des marches. Les détenus, ils y montaient à plusieurs, tous alignés, et ils faisaient ainsi tourner ce gros cylindre.
Il servait à quelque chose, le...
Alors, dans un premier temps...
C'est là que c'est vicieux, il ne servait à rien.
Très bonne question. Ce, jusqu'à 10 heures par jour, autant vous dire que couplé à la malnutrition, certains mouraient de fatigue. Un mort par semaine, notent les archives de la prison de Durham, dans le nord-est du pays, par exemple. Toutefois, il faut dire qu'à l'époque, ça correspondait à certains idéaux victoriens, l'expiation, la repentance, par l'effort. Un effort cruel et parfaitement inutile. Léa, je vous réponds là-dessus. Sauf que, déjà, ça faisait les cuisses et les fessiers.
Alors, l'engin terrorise les prisons de tout le Royaume-Uni et va même s'exporter.
Oui, aux États-Unis notamment, et puis la machine va évoluer. On se dit que ce serait pas bête de relier ce mécanisme à des pompes à eau ou à des moulins à grains. Voilà pourquoi, au passage, tapis de course en anglais, ça se dit encore aujourd'hui, treadmill, bande de roulement, mill,
le moulin.
Ça vient de là, en fait. Voilà donc ces nouveaux bagnards, meuniers, porteurs d'eau, mais toujours aussi souffrants. Alors, aussi parce qu'au-delà de l'effort physique, c'est la monotonie de cet effort qui les rendait complètement dingues. Peut-être que vous avez ressenti ça aussi sur votre tapis de course.
Oui, et encore. Moi, j'ai la télé devant moi.
Au passage, à l'époque, bien sûr, ce n'était pas le cas. Vous savez, au passage, un certain Oscar Wilde a sué sur ses tapis de course primitifs quand il était emprisonné à la fin du 19e siècle pour en raison de son orientation sexuelle. Ouais. Alors, bien sûr, certains trouvaient formidable que ces détenus apprennent ainsi les habitudes de l'industrie du royaume, leur labeur aidé aussi à reconstruire l'économie britannique qui était ruinée à cette époque par les guerres napoléoniennes. On juge tout de même la machine beaucoup trop cruelle à un moment et elle est abandonnée, d'abord aux États-Unis, puis en Angleterre, officiellement, sur une décision du gouvernement au tout début du XXe siècle, donc tout de même assez tard.
Mais alors comment on en est venu à faire de cette machine de torture un équipement sportif ?
Elle est tombée dans l'oubli totalement pendant 50 ans, et puis c'est revenu par les États-Unis avec l'explosion dans les années 70-80 du fitness et de l'aérobic pour un marché estimé aujourd'hui à plusieurs milliards d'euros par an. Alors voilà, la prochaine fois que vous rechignerez pour votre séance pour perdre quelques kilos, estimez-vous heureux, bande de râleurs, parce que vous, votre effort à vous, il est volontaire et consenti.
Ah bah, je crois que je n'arriverai plus à monter sur un tapis de course après cette chronique, Jérôme. Ça sera trop douloureux, psychologiquement pour moi. Léa Drucker, vous faites un peu de sport en salle ou pas ?
Pas trop, non.
Ah oui, donc vous êtes naturellement gaulé comme ça, en fait.
Non,
c'est l'injustice génétique. Non, mais on peut dire, parce que moi, je suis obligé de m'inscrire dans cette salle et je sue sang et eau. Voilà, c'est dégueulasse.
Non, j'ai fait, j'aime bien aller courir, mais dans des parcs.
Ah oui, comme
Eva. Je vais courir dans des parcs.
courir au naturel. Eva,
non, au naturel, ça veut rien dire, au naturel.
Courir dans la nature. Eva, vous qui avez battu Marie-Josée Pérec à la course, on le rappelle à nos auditeurs.
Je fais du tapis de course des fois.
Vous faites du tapis de course, ça vous arrive et vous imaginez cette histoire?
Non, pas du tout, mais c'est vrai que je vais y penser la prochaine fois que je vais monter dessus.
Heures, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. 2 heures pour se détendre et apprendre, c'est la promesse de Mathieu Noël qui nous donne rendez-vous tous les après-midi, en semaine et puis le week-end. Eh bien, on vous compile les moments phares de cette semaine écoulée. À ses côtés, Eva Rock et un invité, mardi. Eh bien, c'était la chanteuse qui a été choisie par Yann Arthus Bertrand pour le générique de son prochain film, la chanteuse Imani.
Vu notre invité aujourd'hui, que je vais vous présenter dans quelques secondes, j'aurais une pensée émue pour un de nos journalistes qui est un de ses plus grands fans. En effet, Mathieu Charrier, qui hélas ne peut pas être parmi nous cet après-midi, a une passion pour notre invité du jour. Jusqu'à encore récemment, il avait même au-dessus de son lit un poster d'elle que sa femme lui a ordonné de retirer. Elle lui a dit « c'est elle ou moi ». Mathieu Charrier, depuis, se balade dans les couloirs de la rédaction en chantant
« Don't be so shy, don't be so shy ».
Et oui, Imani est notre invité cet après-midi. Ah ouais, c'est quand même mieux quand c'est vous qui chantez. Bonjour Imani.
Bonjour.
Est-ce encore utile de vous présenter? Plus d'un million d'albums vendus dans le monde. Ceux qui m'aident à préparer cette émission m'ont même glissé une petite fiche où il est écrit, je cite, « Don't be so shy, hit le plus streamé dans 15 pays et numéro 1 de l'airplay ». Comme si je savais ce que c'était que l'airplay. Ah, ce que je comprends entre les lignes, ma chère, c'est que ça marche fort pour vous, quoi.
Ça va plutôt bien.
Oh, elle use d'un euphémisme. Et donc, j'ai lu dans une interview qu'il y avait aussi pour les chanteurs l'objectif célèbre. La barre du million d'albums, c'est un truc important pour un chanteur. C'est vraiment, on se dit là, on y est, quoi.
Bah, je pense qu'il n'y a aucun chanteur qui se dit, bah, moi, si j'arrive à vendre 5 disques, je serais content.
Non, mais j'ai 500 000, c'est déjà magnifique.
Ouais, 500 000, c'est super, mais les millions, il y a un truc symbolique. Qui donne l'impression qu'on a réussi, mais bon.
Voilà. Qui donne l'impression de rien du tout, qui fait qu'on est une star au-dessus d'un million. Voilà ce que je dis moi.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc la chanteuse Imani qui nous accompagne cet après-midi. Alors Imani, il y a quelques semaines, vous sortiez un coffret live at the Casino de Paris que vous allez me donner, Eva, parce que la caméra est plus souvent sur moi que sur vous. Donc histoire qu'on voit bien l'album, je le montre, moi.
Oh là là.
CD et un DVD refait.
Même le téléachat, je ne peux pas le faire.
Même ça, vous ne pouvez pas faire. Refait de l'immense tournée que vous aviez réalisée en 2018. Un nouvel extrait vient de sortir, Times Only Moves. Et le 4 mars prochain, donc, le nouveau film de Yann Arthus Bertrand, Woman, dont vous signez le générique.
I am your daughter, your wife and a mother. I am your sister, I am your lover. I am no quitter, I am a fighter. I want the power.
Woman, c'est 2000 interviews menées dans 50 pays pour comprendre la place des femmes dans le monde. C'est quoi vos modèles féminins, Imani? Les femmes qui vous ont inspiré, on parlait de Rosa Parks tout à l'heure. Il y a comme ça des grandes figures. Vous êtes dit, on peut y arriver, on peut changer le monde.
Ah, je ne sais pas si je me suis dit ça, mais en tout cas, il y a tout un tas de femmes. Il y a Nina Simone, qui a été une grande influence et musicale, et aussi en tant qu'artiste, son militantisme, son courage. Elle avait vraiment pas froid aux yeux. C'est bête à dire, mais il y a ma mère, elle est moins connue.
Ah bah c'est important.
Mais elle était plus présente. Il y a plein d'artistes comme ça. Même en vieillissant, je m'aperçois que j'ai été une fan assez passive de Madonna.
Une fan passive de Madonna.
Oui, parce qu'en fait, j'allais pas au concert, j'ai acheté quelques disques, pas tous.
Mais elle vous a
disques.
Influencé.
Mais en fait, oui, quand je vois comment elle a changé les choses pour elle-même et pour d'autres femmes, finalement, j'ai l'impression quand même que je suis un produit de cette génération. Je suis née en 79, donc arrivée là, quand elle arrivait dans les années 80, je trouve qu'elle a été comme ça, une espèce de marraine pour beaucoup de femmes. Sans vraiment que je m'en aperçoive.
Est-ce qu'on peut citer aussi Tracy Chapman? Parce que j'ai lu qu'à une époque, votre voix extrêmement grave vous complexait. Puis un jour, vous avez entendu Tracy Chapman, vous vous êtes dit, ouais, pas de problème en fait.
Oui, c'est court.
Ah, c'est mon sens du résumé. Hein.
C'est à peu près ça, ça a pris quelques années, mais oui. Quand je l'ai entendu, je pensais que c'était un homme jusqu'à ce que...
Moi aussi, en fait.
Voilà, et on me dit que c'est une femme. Et ça a mis du temps dans ma tête, mais je me suis dit, mais alors, il n'y a pas que moi. Donc ça, c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Qui est pour vous, Imani? On est allé vous poser la question. Voici non pas un micro-trottoir, toujours monté pour faire croire à l'invité qu'il a que des fans. Non, voici notre micro-trottrash. C'est pareil, sauf qu'on n'a rien coupé.
Imani? Oui, elle est jolie.
Ah, elle est bien, Imani.
Ouais.
Don't be so shy. Ne soyez pas si timide.
Oui. Moi, je suis pas trop timide.
Ben, j'aime bien sa personnalité déjà. J'aime bien le message dans les chansons et je trouve qu'elle est vraiment posée, un peu comme Corneille.
Imani, top model.
Ben, je pense qu'elle a pas peur de dire ce qu'elle a envie de dire.
Ah oui, la chanteuse, oui.
Bonjour Imani.
Coucou Imani, on vous aime beaucoup et vous êtes une super chanteuse.
Ça va? En santé.
Imani, ah là là.
Imani, ah là là. Je crois que c'est exactement ce que m'a dit Patrick Cohen, qui en grand mélomane vous a découvert avant tout le monde à l'époque. Vous êtes fan, Patrick?
Oui, j'aime beaucoup.
Ah, beaucoup. Ça tombe plutôt bien. Ça aurait été gênant sinon. Imani, sur scène, vous reprenez Bang Bang. Bang Bang, comment on dit?
Bang Bang
plutôt, hein, quand on parle bien anglais comme moi et comme Eva. Chanté par Cher, ou encore un titre de Queen, Bohemian Rhapsody. Alors, il y a deux choses qui permettent de distinguer les très grands chanteurs et chanteuses. C'est ceux qui vendent plus d'un million d'albums.
Et ceux qui reprennent Freddie Mercury
en faisant un truc qui envoie et qui soit beau. C'est quand même très rare, parce que c'est quand même une chanson extrêmement difficile dans Bohemian Rhapsody.
Ah, c'est un chef-d'œuvre de la musique pop.
Mais chef-d'œuvre de la musique pop, on est tous d'accord, mais difficulté technique aussi à interpréter cette chanson.
Oui, et d'ailleurs, il ne faut pas essayer de faire comme Freddie Mercury.
Il faut faire autre chose.
Il faut le faire comme soi. Et puis, ce qui était intéressant, ce qui m'a intéressé dans cette version, c'est de... Comment dire? Ça a été écrit vraiment comme une opérette, vraiment comme de la musique classique. Même pour nous, pour relever les parties, c'était très très dur. Et au lieu d'avoir les voix qui fassent « Mamma mia, mamma mia », j'ai fait chanter les instruments. Et en fait, du coup, il ne faut pas essayer de refaire la version de Freddie Mercury. Ce n'est pas intéressant, elle existe déjà. Elle est magnifique. Il faut essayer de faire sa version à soi et sans trop trahir l'esprit de la chanson, quoi.
Eva, vous voulez dire quelque chose?
Non, je me demandais quelle chanson vous fredonniez en ce moment, Imani, parce que je sais que vous chantez beaucoup, même sous la douche. Et je me demandais.
Comme nous, mais pas avec le même résultat.
Voilà, c'est ça. Non, quelle chanson vous aviez en tête en ce moment?
Alors, en ce moment, je chante Creep de Radiohead. Alors, c'est vrai que c'est ce que je chante à ma fille pour qu'elle s'endorme. Peut-être qu'il faut que je change. Parce que
ça va lui faire des cauchemars. Ah, ouais.
Ça fait non, quoi, mais... Creep?
Whatever makes you happy, whatever you are, you're just like an angel. Your skin makes me cry, but I'm a creep, I'm a weirdo, what the hell am I doing here, I don't belong here, no, no.
Eh ben, si je chantais sous ma douche comme ça, je prendrais des douches plus longues. Ça serait pas bon pour l'environnement, mais ça me ferait plaisir. Et vous savez, Imani, vous n'êtes pas la seule à reprendre Queen.
Ah oui, c'est le problème.
Non, et certains l'ont fait, je dirais, avec plus de brio, de talent que vous. Go on and on and on. We are the champions. No time for losers. Et oui, Imani, donc il va falloir travailler encore un petit peu. Après, bon, il y a une part de talent qu'on ne peut pas maîtriser, forcément. Il se trouve que, bon, on a l'oreille absolue ou pas.
C'est la,
nous,
c'est
on
la
l'a
douche
pas.
Des Varocs.
C'est la douche des Varocs avec Anis Mbida.
D'accord.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Quand notre corps nous parle de notre cerveau, il en était question cette semaine dans l'équipée sauvage. On reste bien sûr avec Mathieu Noël et Varox Accomplice. Et vendredi 31 janvier, puisque c'est une compilation le week-end, vous le savez, lors de l'émission publique, Mathieu Noël recevait Elise Moon et Florent Père. Mais l'équipée sauvage, c'est aussi une compétition et elle se poursuit maintenant avec Alain Sirou.
Alain dit l'arnaqueur pour sa faculté à nous faire croire que les scientifiques ont découvert un truc de dingue, alors qu'en fait non.
Le potier, quand il fabrique l'amphore, il a les doigts sur l'amphore.
Ah oui.
Et on aurait pu entendre finalement sa voix.
C'est incroyable.
Ou les voix des gens autour de lui.
C'est comme un sillon quoi.
Mais ça n'a pas marché.
Alain, vous êtes actuellement deuxième du championnat européen, on ne sait pas trop comment. Avec quel sujet allez-vous vous propulser à la première place, soutenu par un public déjà acquis à votre cause, je le sens?
Avec la curiosité, parce qu'en fait, quand on s'intéresse à la science, on s'intéresse à la curiosité et à l'observation. Il y a deux grands mystères en science, il y a l'univers, en tout cas pour moi, et puis il y a le cerveau. Et le cerveau, c'est quelque chose qu'on a du mal à, comment dire, à concevoir, parce que d'abord, on en a tous un, en principe.
Jusque-là, je vous
suis. Vous me suivez. Mais à l'école, comment on parle du cerveau? Eh bien, peut-être en proposant aux enfants, par exemple, de regarder comment le cerveau se manifeste à travers nos corps. Oui, parce qu'il parle. Je vais vous donner quelques exemples. Vous allez au tableau avec vos ongles sur le tableau.
Ah
là, voilà, première réaction. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on rougit? Pourquoi est-ce qu'on bâille? Alors, je peux bâiller, mais je ne vais pas le faire ici, parce que quand même, voilà. Mais quelques-uns vont bâiller aussi en même temps que moi. D'autres vont avoir le hoquet. Okay. Il y a un pape qui a eu le hockey pendant 10 ans. 10 ans.
Oui, mais bon. Il est mort.
À la fin, oui, mais pas du hockey.
Ah, mais si, il y en a un qui est mort.
Même le pape n'est pas épargné dans cette émission.
On est en train de parler du cerveau. Hein. Oui, d'accord.
Exactement, d'où ça vient. Donc la question, c'est finalement, les scientifiques se sont intéressés à ces signaux qui nous parlent de quelque chose qui est dans notre tête, qui s'appelle le cerveau. C'est comment ça marche, finalement. Alors, il y a une chose que j'ai adorée, c'est justement ce qu'on appelle le guili-guili, les chatouilles. Vous savez qu'Aristote disait, vraiment, personne ne peut se chatouiller tout seul.
Et oui.
C'est Aristote qui disait
mais
ça.
C'est absolument.
C'est pas Patrick Sébastien, c'est...
Non, pas du tout. Et donc, ça veut dire que c'est un sujet qui existe depuis très longtemps, parce que le hockey... Il y a des tas de théories, on ne sait pas comment ça marche, etc. Mais la chatouille, c'est encore pire.
Je ne vois pas où vous voulez en venir.
Alors,
mais Élie, personne ne sait jamais où il veut en venir. C'est ça qui est fabuleux.
Je suis avec vous, monsieur.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Je veux en venir sur, finalement, pourquoi est-ce que ça marche. Donc, les scientifiques se sont intéressés à pourquoi est-ce que, finalement, lorsque quelqu'un vous chatouille le ventre, vous riez, ou même s'approche avec vos doigts, avec des doigts pour vous chatouiller.
Ah oui, même ça, même l'approche me fait rire, moi.
Mais ça ne marche pas sur le coude, par exemple. Ça ne marche pas sur le dessus de la main. Pourquoi ? En science, on fait des expériences. Donc,
les scientifiques qui se gendarmardent, ils se sont chatouillés comme ça ?
Ont utilisé des rats. Alors, je vous signale que la souris n'est pas chatouilleuse, mais le rat l'est.
Oui, ça,
et donc, quand on chatouille un rat, il émet des ultrasons que ses collègues entendent et qui les font marrer, en quelque sorte.
Il fait
Et donc, on a effectivement utilisé ces rats, on a mis des électrodes sur le cerveau, on a vu comment le signal passait. Et on a découvert que, d'abord, ils étaient sensibles à certaines chatouilles, mais aussi à des zones particulières comme l'homme. C'est-à-dire que ça fonctionnait de la même façon. Et on a comparé les deux. Et on s'est rendu compte qu'il y a un endroit dans le cerveau qui s'appelle l'insula, qui est en fait la région du cerveau qui témoigne en fait des états et des liens entre le corps et les émotions qui s'activaient à ce moment-là. Mais pourquoi ? Et là, on a découvert aussi que finalement, ce qui interdisait la chatouille, c'est le stress, la peur. Ça ne marche pas quand on a peur. Quand quelqu'un vous agresse, on n'est pas sensible à ça. Par contre, dans le jeu, qu'est-ce que signifie le jeu dans l'histoire de l'évolution animale, humaine, etc. Le jeu, c'est, je dirais, c'est un simulacre de combat avec un adversaire et puis à un moment donné, quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd. Et quelqu'un qui perd, à un moment donné, un signe de soumission. Et pour se soumettre, et regardez avec votre chien, avec des animaux.
Vous avez l'idée d'aller regarder avec Florent. Mais qu'est-ce qui lui prend, Alain ?
Pour montrer qu'on a perdu, on montre une zone sensible, celle qui est la plus vulnérable. Et on dit d'accord. J'ai perdu, donc voilà ma zone sensible. Et effectivement, la petite chatouille, le petit endroit qui est vulnérable, signe quelque part une soumission. Et la conclusion des neurologues, c'est que la chatouille signale la vulnérabilité, qu'elle est commune aux animaux et aux hommes, pas tous, et qu'elle parle de notre cerveau qui est ancestral. Nous sommes là sur la Terre, nous les humains, depuis plusieurs millions d'années. Nous sommes, entre guillemets, civilisés, en tout cas l'agriculture, depuis 10 000 ans. Eh bien, tous nos réflexes, en grande partie, et ces petites manifestations dont je vous parlais, la chair de poule, les frissonnements, les rougeurs, les chatouilles, etc., viennent de notre cerveau ancestral, celui qui a signé aussi comme les chiens, comme les rats, etc., le jeu, la compétition, la peur, l'alerte. Et ça, c'est une façon de comprendre le cerveau, c'est qu'il a une histoire. Et comme l'univers, eh bien, c'est intéressant de l'explorer.
Et maintenant, c'est notre nouveau défi pour les invités. Résumez la chronique d'Alain en une phrase. Élie, on vous écoute.
Non, mais moi, depuis que vous l'avez traité de pédocriminel...
Merci Alain Siroux pour cette chronique qui nous a entraînés au cœur du cerveau. Comment ça s'appelle la petite zone ? L'insula, ça a à voir avec insuline probablement. On me la fait pas. Non, pas du tout. D'accord, autant
juste
pour moi.
Juste à côté de l'hypothalamus et l'hypophyse.
Exactement.
L'hypopotamus. Je t'invite à... Allez, c'est parti.
C'est incroyable, Élie, parce que je l'ai eu et hop, je l'ai censuré pile au bon
moment. Ah oui, c'est vrai. Et moi, je l'ai fait.
On est complémentaires.
Complémentaires, ouais.
Oui, merci Eva. Merci, c'est magnifique, magnifique. Et nous sommes au bout, me signale-t-on en régie. Eh bien, si nous sommes au bout, je vous dis à tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1.
L'équipé sauvage.
17h50, apprendre et se divertir toujours, oui, avec Mathieu Noël, autour duquel vous retrouvez Eva Rock, sa complice, et un invité. On a débuté la semaine, vous le savez, avec le rappeur Oxmo Puccino.
Longtemps numéro 1 sur le rap, c'est la fin d'une époque pour Skyrock, car cet après-midi, l'espace de 2 heures en tout cas, Europe 1 reprend le flambeau.
Oui, Europe 1, normalement 634e sur le rap, a décidé de rattraper cet après-midi le temps perdu, et ce malgré le précédent malheureux connu sous le nom de jurisprudence IAM, qui fait que depuis que j'ai reçu Akhenaton et Shuriken et que ma première question a été... Ma première question est beaucoup plus prosaïque. Quand vous avez créé NTM en 89...
Avant de répondre à la question, on n'a pas créé NTM, on a créé IAM. Vous l'avez enregistré celle-là, elle est pas mal.
Les attachés de presse hésitaient à nous envoyer des rappeurs, mais certains attachés de presse sont plus courageux que d'autres, notamment le sien, puisque Oxmo Puccino, notre invité cet après-midi.
365 jours plus 700 le temps, commence à manquer, tu l'espionnes.
Bonjour Oxmo Puccino, bienvenue parmi nous.
Merci, merci, quel accueil.
Merci d'avoir donné une deuxième chance au rap sur Europe 1. Votre dernier album, La Nuit du Réveil, est un succès. Vous êtes en tournée dans toute la France et vous serez notamment le 30 mars à l'Olympia, si je ne m'abuse, Eva.
Exactement.
Le Jacques Brel du rap, on dit ça, c'est vrai, j'ai lu ça dans les papiers. On vous a surnommé comme ça à un moment, en tout
on
cas.
On m'a surnommé comme ça, mais en concert actuellement, j'aime rappeler que je suis avant tout le rappeur de l'amour.
Le rappeur de l'amour.
Et qu'on ne le dit pas assez.
Alors, le titre du dernier album, c'est La Nuit du Réveil. Titre assez énigmatique, La Nuit du Réveil. Est-ce que c'est une métaphore pour dire que vous étiez assoupi, Oxmo ?
C'est quelque chose qui arrive à tout le monde, un peu, tous les jours, avec un peu de chance. Mais c'est un assoupissement de vie. Voilà. C'est un sommeil un peu plus long que d'habitude, si on peut dire. C'est de ça que je parle dans ce disque, en gros, en largeur.
Et vous avez mis 4 ans pour l'écrire ?
3 ans.
3 ans, c'est déjà plus que la moyenne dans le rap français aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a une profusion. Non mais pour dire que vous avez pris votre temps, c'est plutôt un compliment. C'est pour dire que vous êtes quelqu'un qui réfléchissait énormément au texte. Vous produisez pas à foison parce que vous faites attention.
Je crois encore au concept du « ce qui est bon prend son temps ».
Ouais.
Ouais. Et le disque ne m'a pas prouvé le contraire.
Vous en parlez beaucoup du temps, notamment dans cet album, mais d'une façon générale, on a entendu un extrait tout à l'heure de 365 jours. C'est quelque chose qui vous obsède, qui vous fait peur, qui vous avez peur de vieillir ?
Non, pas du tout. Je parlais avec un ami l'autre jour qui me disait « oui, ils ont peur de la mort, ils ont peur de la mort ». Et en explosant de rire, il me dit « oui, mais ils devraient avoir plus peur de la vie ».
C'est clair.
Parce que c'est là où tout se passe, en fait. Ouais. Vous n'êtes pas certain d'avant ni d'après. Et tout le monde est en train de courir après des choses qu'il ne comprend pas, alors qu'en fait, c'est sa vie le plus important. Et je le rappelle tout le temps à chaque concert, et j'ai l'impression de révéler quelque chose à chaque fois. Et c'est pas une obsession, c'est quelque chose de normal.
Ouais.
Je suis obsédé par la vie.
Oxmo, encore une réflexion de néophyte que je suis en rap. Pour moi, vous êtes une légende, rien que le nom d'Oxmo Puccino, c'est légendaire. Et vous dites pourtant, à ce stade, je n'ai pas le droit de sortir un disque qui ne marche pas, ça peut me casser, m'archiver. Mais vous, on ne peut pas vous archiver, vous êtes Oxmo Puccino.
Bah,
vous
n'êtes pas un petit jeune qui démarre. C'est une idée que je me fais. Je considère que je repars à zéro à chaque fois. Je considère que je reste pas sur aucun acquis. Et je regarde pas en arrière parce que justement je suis dans une sorte de course qui fait que je me sens toujours frais, toujours content de repartir.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Mesdames et messieurs, c'est une rencontre historique à laquelle nous allons assister à présent. D'un côté, Oxmo Puccino, légende du rap français. De l'autre, Olivier Pouls, alias Snoop Doggy Bag, légende du rap belge. Olivier Pouls, notre expert gastronomique, qui avait connu son premier succès en live dans cette émission, la fois où il avait décidé de rapper sa recette devant Shuriken et Akhenaton du groupe IAM. Moment que je qualifierais de clé de voûte surréaliste de la saison.
Et je mange la yoli. Dans un mortier, là il te faudra mettre coupé. Avec de l'huile, l'aioli doit se monter. Un peu de citron, oui, tu peux rajouter. Mais pas un œuf, tu vas te faire buter.
Bonjour Snoop Doggy Bag.
Bonjour les amis, bonjour chers collègues rappeurs.
Rassurez-nous Olivier, pas de rap aujourd'hui, peut-être une recette toute simple. Hein.
Ah non mais je vais rapper figurez-vous.
Non
mais je vais rapper des pommes de terre, rassurez-vous.
Je ne sais pas si, ce que je crains le plus, si ce sont vos raps ou vos vannes, je ne sais pas, les deux me font peur. Allez-y Olivier, on vous écoute, vous rappez des pommes de terre.
Avant de proposer éventuellement un duo à Oxmo, je voulais lui proposer une recette de rap justement, de pommes de terre râpées, ça m'a inspiré aujourd'hui en préparant la recette. Et je me suis dit que des galettes, des rostis comme on appelle ça dans l'Est de la France, des galettes de pommes de terre râpées, ça pouvait peut-être le faire.
Alors expliquez-nous comment vous faites vos rostis.
Bon ben tout d'abord je prends 500 grammes de pommes de terre, des pommes de terre à chair farineuse, donc plutôt des binches ou des arias, si vous arrivez à trouver ça, mais la binche est assez courant quand même. Et justement, ces pommes de terre, après les avoir épluchées et passées sous l'eau, je vais les râper. Je vais les râper très finement, mais alors pas avec Oxmo, mais tout simplement avec une râpe. Et ensuite, je vais rajouter à ce mélange, et je ne vais pas les renettoyer, parce qu'il faut bien garder l'amidon qui est contenu dans la pomme de terre.
Ah, l'amidon.
Une fois qu'elles sont râpées, on les garde comme ça. On les presse éventuellement un petit peu entre les mains s'il y a un excès de liquide, mais on garde bien l'amidon qui est contenu dans la pomme de terre. On va rajouter un œuf, on va rajouter une petite cuillère de farine, de la ciboulette, un oignon émincé, et on va former des espèces de petites galettes. Ces petites galettes, il ne restera plus ensuite que les passer dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive par exemple, ou de l'huile plus classique végétale, et on les fait bien dorer dessus, dessous, ça donne de belles galettes. Et pour Oxmo, petit clin d'œil à ses origines maliennes, même s'il n'y a pas vécu beaucoup, mais peut-être a-t-il quelques souvenirs de la cuisine de sa maman du Mali.
Bah oui.
Et là, vous jouiez gros, hein, ouais. Parce qu'un peu plus, je vous disais non, elle ne préparait pas du tout de bouffe malienne.
Là, il faisait les livraisons.
Et je vous propose éventuellement de remplacer la pomme de terre Binche par de la patate douce.
Oh,
ça marche là aussi très très bien et ça donne une galette un petit peu plus sucrée. On garde le croustillant et dedans, on peut rajouter, on peut s'amuser à les twister entre guillemets. Alors pour Eva, on peut rajouter un peu de fromage, hein, par
bien
exemple du parmesan ou du comté, mais on peut aussi rajouter quelques lardons et là, ça vous fait un plat complet absolument facile, délicieux et râpé.
Olivier Pouls, je vous dis merci. Olivier, on vous retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.